Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, il est 20h32 à peu près. Ce soir, Radio Libertaire consacre une émission spéciale à la question du terrorisme comme mode de gouvernement. Avec une ouverture aux auditeurs, vous pourrez appeler au 01 43 71 89 40.
En 1977, commentant le suicide entre guillemets de la bande à Bader en Allemagne, Charlotte Delbault, rescapée d'Auschwitz et de Ravensbrück, rappela dans un article du Monde qu'elle aussi avait été arrêtée en tant que terroriste par des brigades spéciales. Commentant ces paroles, le sociologue René Louraud fit remarquer que la violence des actions menées par Andreas Bader et Ulrike Meinhof n'était intelligible qu'au regard des jeux nauséeux de la super-institution étatique. 30 ans plus tard, et toujours dans le Monde, c'est du possible retour de ces formes d'action directe que la ministre Michèle Alliot-Marie s'inquiète. Épinglant une prétendue mouvance anarcho-autonome, la ministre aligne alors le chiffre de 300 personnes qui, reconnaît-elle, ne sont pas toutes acquises à des actions violentes, mais qui pourraient basculer sur la base du dépérissement de la gauche instituée. Ces propos sont intervenus, on le sait, juste après que 9 personnes aient été placées en garde à vue prolongée pour avoir saboté des voies ferroviaires SNCF. Ce qui semble avoir justifié ces mesures exceptionnelles, ces personnes ont partagé les principes concrets d'une existence qu'elles ont voulu alternative. Elles ont mené une aventure de pensée commune, matérialisée dans un petit livre, L'insurrection qui vient. Elles n'utilisent pas de téléphone portable et participent à d'étranges réunions. À l'heure actuelle, alors que les autres membres de la prétendue cellule invisible ont été relâchés, Julien Coupa est toujours détenu avec comme chef d'inculpation association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Ces derniers temps, les affaires de la sorte ne manquent pas. Par exemple, 2 militants sont toujours détenus pour avoir été trouvés par la police à proximité d'une manifestation contre le centre de rétention de Vincennes, en possession de clous et de fumigènes. D'autres également pour avoir soi-disant convoyé du chlorate de soude avec dans la poche des plans d'établissement pénitentiaire, ou encore 3 autres sont soupçonnés d'une tentative d'incendie d'un véhicule de police. Terroristes eux aussi. Que signifie cette inflation de la sémantique et de la pratique contre-terroriste ? Au cours de cette émission, nous essaierons collectivement, avec nos invités mais aussi avec vous, auditeurs de Radio Libertaire, de réfléchir aux effets de ce terrorisme comme mode de gouvernement. Effet sur nos libertés de vivre, de parler, de lutter.
Donc, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Ce soir, émission spéciale consacrée à la question du terrorisme, du contre-terrorisme, pardon, lapsus. Mais on verra peut-être que ce lapsus peut signifier bien les choses. Du contre-terrorisme comme mode de gouvernement, une émission animée par Charlotte Hesse et Valentin Scaplin de l'émission Zone d'attraction, par ailleurs. Cette émission donc spéciale de Radio Libertaire se solidarise bien évidemment avec la semaine intitulée « Sabotons l'antiterrorisme » organisée par différents comités sur le territoire avec différentes actions et festivités combatives. On rappelle aussi qu'une grande manifestation aura lieu le 31 janvier 2009 à partir de 15h, du métro Luxembourg à Denfert-Rochereau, initiative relayée notamment par Alternative Libertaire, SCALP, la CNT et la Fédération Anarchiste. Je vous rappelle aussi que cette émission sera ouverte aux auditeurs, donc nous prendrons vos réactions et vos appels, nos invités y répondront au 01 43 71 89 40. Voilà. Alors avec nous ce soir, nous avons Alain Brossa, philosophe, enseignant à Paris 8, auteur entre autres de Pour en finir avec la prison, du corps et de l'ennemi, hyperviolence et démocratie, publié aux éditions La Fabrique. Bonsoir, bonsoir Alain.
Bonsoir.
Laurent Bonelli, enseignant en sciences politiques à Paris 10, co-auteur d'un ouvrage intitulé « La machine à punir », publié aux éditions de l'Esprit Frappeur, auteur d'un ouvrage intitulé « La France a peur », qui a été publié en 2007, si je ne dis pas de bêtises, et co-auteur aussi d'un ouvrage récemment paru à La Découverte, intitulé « Au nom du 11 septembre ».
Et bonsoir.
Bonsoir, oui. Et enfin, donc David Depas, du syndicat de la magistrature, vers qui j'aimerais me tourner un peu pour commencer cette émission, en vous demandant, bon, pour vous, alors depuis plusieurs années, on va dire que la question de la politique sécuritaire est une question assez centrale pour qui milite depuis de nombreuses années. La question que j'aimerais poser au jury, c'est aujourd'hui, selon vous, où en est-on au niveau de la détermination de ce que c'est qu'une politique sécuritaire, parce que on assiste à la multiplication de beaucoup de mesures, il y a la rétention de sûreté, il y a récemment ce qui a été mis sur le devant de la scène, c'est la suppression du juge d'instruction. Et puis, donc, il y a eu ces affaires, alors l'affaire de Tarnac, beaucoup d'autres aussi, où des personnes ont été retenues pour des motifs de contre-terrorisme. Mais plus globalement, pour commencer, peut-être se situer dans un contexte plus large, qui est celui de la détermination et de la définition des politiques sécuritaires. Et pour le juriste, qu'est-ce que ça peut signifier, selon vous, politique sécuritaire? Ça veut dire quoi?
Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Disons que ce sur quoi le syndicat de la magistrature tente d'attirer l'attention depuis déjà quelques années, c'est que la justice, dont je rappelle quand même que sa mission constitutionnelle est d'être la gardienne des libertés individuelles, est aujourd'hui affectée, c'est assez nouveau, par un double mouvement qui, un peu comme un étau, porte directement atteinte à son indépendance et à sa faculté d'exercer cette mission. On a d'une part, vous l'avez dit, un empilement de textes de plus en plus répressifs qui oriente les tribunaux vers plus de sévérité, vers plus d'enfermement et surtout qui restreignent, et c'est la nouveauté de ces 5 dernières années, qui restreignent le pouvoir d'appréciation du juge et son devoir de personnalisation des décisions. Donc, des empiétements répétés au principe de la séparation des pouvoirs, dont je rappelle quand même qu'il n'a pas vocation à garantir le confort ou l'impunité du juge, mais à protéger le citoyen contre l'arbitraire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette possibilité de ce devoir d'individualisation? Ça paraît un concept obscur alors que c'est en réalité essentiel. C'est finalement pour un juge de n'être plus totalement maître de sa décision en fonction de la situation particulière qu'il a en face de lui. C'est finalement le fait de se voir dicter la décision par un autre, hein, en l'occurrence le pouvoir exécutif, et on a de plus en plus de dispositions procédurales, et je pense aux plaidés coupables, où le juge n'intervient plus que comme un homologateur.
Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, à nous et aussi pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est que cette mesure précisément?
Alors, cette mesure dite du plaidé coupable, qui est une mesure assez récente, est une sorte de discussion entre l'accusation et la défense, un échange à la suite d'une infraction, qu'une personne va reconnaître et au cours de laquelle la peine va se négocier. Mais bien entendu, la personne se trouve quand même dans une position claire d'infériorité vis-à-vis du parquet et le juge n'a qu'un pouvoir d'observation et d'homologation ou pas de ce qui a été discuté. Donc ça fait partie, si vous voulez, des éléments d'inquiétude. Et on a d'autres exemples. On sait que la loi Perben II, par exemple, limite le recours, par exemple, au sursis avec mise à l'épreuve, ce qui oblige le juge à sanctionner toujours plus fort. Et on s'oriente vers une systématisation de l'enfermement qui trouve son paroxysme dans un texte du 10 août 2007, qui est la fameuse loi sur les peines planchers, dont vous avez certainement entendu parler, et qui oblige cette fois le juge à prononcer des peines d'emprisonnement en cas de récidive, sans pouvoir prendre en considération suffisamment l'importance du préjudice de la victime ou la situation particulière d'un tel et un tel.
On prend plus en compte le contexte.
Voilà, c'est-à-dire que quand on parle de loi sécuritaire, c'est sûr, c'est aussi la création d'infractions nouvelles au gré d'un fait divers du moment, le guet-apens, l'embuscade, ou l'alourdissement, ou le stationnement dans un hall d'immeuble, ou alourdir les peines, rébellion, etc. Mais c'est aussi, et ça c'est vrai que c'est un peu difficile à faire entendre, des lois de procédure extrêmement dures et qui ne permettent plus au juge d'avoir ce rôle essentiel de régulateur et de contrôle.
Et vous, Laurent Bonnini, alors c'est vrai que ça fait à peu près 10 ans aussi que vous travaillez plus généralement sur le discours sécuritaire. Donc comment vous voyez les effets, vous, de ce glissement sécuritaire? Bon, y a toujours eu, je pense, une attention particulière particulière à des mesures sécuritaires, mais est-ce que vous voyez, je ne sais pas, depuis les années 80, un certain glissement
Oui, alors j'ai intitulé un de mes bouquins qui s'appelle La France a peur. Alors, La France a peur, certains s'en souviennent peut-être, c'est 1976, Roger Gicquel qui ouvre son journal télévisé sur La France a peur. Et si je l'intitulais ainsi, c'est parce que je dirais c'est sans doute un moment, alors pas de basculement, mais un moment à partir duquel, je dirais, les choses vont commencer à glisser. Et finalement, quand on observe, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions à la fin des années 90, notamment 97, je dirais il y a un peu une triple surprise qui a guidé un peu mes travaux à ce moment-là. Le premier, certains s'en souviennent peut-être, c'est octobre 97, c'est le colloque de Villepinte. Le colloque de Villepinte, pour les plus jeunes auditeurs, qui étaient à peine nés, dira-t-on, c'était quoi ? C'était la première rentrée politique d'un gouvernement de gauche pluriel, récemment élu, il a été élu en juin, et qui fait sa première rentrée politique au colloque de Villepinte en proclamant que la sécurité est désormais une préoccupation de gauche. Ça devient l'une des principales priorités du gouvernement Jospin, après l'emploi, la seconde après l'emploi. Et alors, c'est une première surprise, puisque traditionnellement, je dirais, la sécurité était plutôt attachée aux partis politiques de droite. Il suffit de se souvenir, la loi sécurité-liberté au début des années 80, où les députés socialistes hurlaient au fascisme quand le garde des Sceaux de l'époque voulait faire passer la garde à vue de 24 à 48 heures. Bon, 20 ans plus tard, le groupe socialiste est courageusement abstenu au passage à 144 heures de la garde à vue en matière antiterroriste. Bon. Alors, donc première surprise, c'est le passage, si vous voulez, de la sécurité, finalement, de la droite vers la gauche. La deuxième surprise, c'est la reformulation d'un consensus très fort qui existait dans les années 70, à la fois chez les professionnels, mais aussi dans le champ politique, qui était l'idée que s'il y avait des délinquants, s'il y avait des désordres, tout cela, finalement, était lié à ce qu'on appelait à l'époque des ratés de socialisation. On ne doutait pas, en tout cas, que le progrès économique et social du pays allait résorber tout cela. D'où d'ailleurs, à l'époque, tout un tas de discours assez puissants sur la réhabilitation, la réinsertion, etc. Bon.
Donc on était encore dans une logique de l'inclusion, finalement.
Logique de l'inclusion. Et surtout d'un consensus. Donc force est de constater qu'à la fin des années 90, il y a un consensus parfaitement inverse, qui est un consensus punitif. Il faut punir et mieux punir. Et d'ailleurs, dont on vient de le dire à l'instant, l'un des effets mécaniques est que la France bat régulièrement ses taux d'incarcération. À partir de 2004, on a battu les taux d'incarcération, et là, très régulièrement, pas chaque mois, mais très régulièrement, en tout cas, on a, et d'ailleurs, des taux d'incarcération qui se traduisent par une surpopulation complète des prisons et par un certain nombre de suicides en prison liés notamment aux conditions de détention. Troisième surprise, donc passage de la gauche à droite, reformulation d'un consensus. La troisième, c'était l'invasion, à partir de la fin des années 90, véritablement des discours publics sur les questions de sécurité, je dirais, qui deviennent, je dirais, le prisme d'analyse tout terrain pour parler des milieux et des quartiers populaires. C'est-à-dire, dès lors que l'on parle d'un milieu populaire ou de jeunesse populaire, l'insécurité va devenir le prime pertinent, si vous voulez, pour aborder cette question. On va parler d'absentéisme scolaire. C'est un problème, par un absentéisme scolaire va devenir un délinquant. On va parler d'urbanisme, il faudra parler d'urbanisme sécurisé. On va parler d'illettrisme, etc., etc.
D'alimentation aussi, parfois.
Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, vous avez... ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler précisément sur la généalogie de cela, sur comment tout cela s'est passé, puisque il n'y a pas une source unique, bien entendu, vous en doutez, ce sont des transformations qui existent dans des milieux différents, dans le monde politique. On ne comprendrait pas ça sans voir comment se transforment les partis, et notamment les partis de gauche dans la période, sans parler des formes de traitement, et je crois que c'est très important, sur la période, les quartiers populaires se transforment, les milieux populaires se transforment et se précarisent. Et sur cette période-là, on va voir, alors même que durant les années 80, on pense encore, grosso modo, qu'il faut prendre un certain nombre de mesures sociales pour essayer de résorber, je dirais, la pauvreté et la misère qui existe dans un certain nombre de quartiers, on va voir très largement glisser durant les années 90 vers des formes, finalement, de gestion policière et pénale, je dirais, des désordres liés finalement à la misère.
Il y a aussi, il me semble, pas mal d'entreprises qui se développent, de conseils, de consulting finalement en sécurité. Il y a le célèbre Alain Bauer, par exemple, qui avait, je crois, écrit pas mal de textes à une époque pour expliquer que la France rattrapait New York en termes d'insécurité, qu'il fallait appliquer le principe de la tolérance zéro. Et qui par ailleurs était, je crois qu'il était consultant, en tout cas il avait une boîte qui vendait en fait du matériel de sécurité. Alors, donc il y a quand même quelque part un certain développement d'un business de la sécurité à un moment donné.
Alors je crois qu'il y a un business de la sécurité, mais je crois qu'il ne faut pas inverser la propriété. Je dirais que c'est quelqu'un comme Alain Bauer a pu exister parce qu'il y a eu des transformations très profondes, notamment dans le champ politique, dans le champ médiatique et autres. C'est-à-dire, c'est parce qu'un certain nombre d'hommes politiques, même si des gens comme Bauer ont bien sûr participé à convaincre des hommes politiques que c'était quelque chose d'important, c'est aussi parce que ceci s'est passé que ces gens-là ont pu prospérer. Alors prospérer, effectivement, ils ont prospéré. Quelqu'un comme Alain Bauer, qui vient très récemment d'être nommé par Nicolas Sarkozy au CNAM sur une chaire créée à sa mesure, une chaire de criminologie, c'est assez amusant, puisque Alain Bauer n'est jamais rien d'autre qu'un entrepreneur en sécurité, un marchand de peur, comme on l'appelle, effectivement a vu son chiffre d'affaires multiplié par 5 entre 97 et 2007, c'est un business assez lucratif, et effectivement, il fait partie de ces gens que j'appelle des marchands de peur, qui sont des gens qui vont décrire des situations parfaitement apocalyptiques des quartiers pour proposer des solutions, soit les vendre, c'est le cas d'Alain Bauer et d'un certain nombre d'autres gens, soit en tirer des moyens renforcés. Vous avez par exemple à l'époque le syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, qui va de la même manière décrire des situations dramatiques pour demander plus de moyens pour la police. Bon, vous avez des gens comme Xavier Hofer qui vont recycler ce qu'ils ne peuvent plus dire en matière d'immigration, c'est-à-dire grosso modo immigrés égale délinquants, ils vont plus parler d'immigrés, donc ils sont les vieux fondamentaux de l'extrême droite française, ancien fondateur d'Occident chrétien, etc. Bon, et alors c'est très intéressant parce qu'on avait déjà beaucoup dénoncé ces gens-là, je dirais, dans les années 90, mais ils étaient, à la fin des années 90, ils étaient largement marginaux. Je dirais le coup de balancier à droite du spectre politique contemporain fait qu'aujourd'hui ces gens se retrouvent dans une position de centralité. Et je crois qu'il faut insister sur quelque chose, c'est que Nicolas Sarkozy et la politique actuelle ont effectivement radicalisé dans une certaine mesure cette politique-là. Mais je crois que c'est absolument essentiel, je dirais, ils n'en sont pas les inventeurs de cette logique. Il n'y a pas une rupture de logique, si vous voulez, entre ce qui s'invente à la fin des années 90 et ce qui se déploie dans les années 2000. C'est-à-dire que vous avez une radicalisation, c'est-à-dire qu'on va plus loin, mais si vous prenez par exemple les lois sur la sécurité quotidienne, les lois sur la sécurité intérieure, enfin la succession de lois, vous apercevez que les logiques ne s'opposent pas, vous avez plutôt des questions de degré.
On est plutôt dans un continuum progressif mais radicalisé finalement.
Oui, j'ajoute d'un mot que c'est à Alain Bauer que l'on a confié tout récemment une mission de réflexion, nous dit-on, sur la prolifération des fichiers en France. C'est à lui qu'appartient maintenant de nous dire, alors que pourtant la CNIL existe déjà et qu'elle s'est même aujourd'hui prononcée de manière très...
Tu peux nous dire précisément ce que c'est ?
Ce qu'est la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté qui est chargée de contrôler le fonctionnement des différents fichiers de police, de justice et autres qui existent en France et qui est manifestement désemparée par la prolifération anarchique de ces fichiers, leur absence de contrôle, etc., et qui aujourd'hui a clairement dit qu'il y avait des difficultés significatives sur le STIC, hein, le fichier de police des infractions constatées, qui n'étaient pas suffisamment contrôlées, expurgées des informations erronées ou anciennes. Bon, voilà. Donc il existe cette structure-là, mais on a confié malgré tout, à la suite de la mobilisation citoyenne autour du fichier Edwige, on a confié à Alain Bauer le soin de faire un état des lieux sur le fichage en France.
Et si tu me permets, juste une autre dimension sur ce personnage, sur ce sombre personnage, c'est que Alain Bauer s'est vu aussi confier la réorganisation des études de sécurité en France, et il est fort probable que ce soit cet homme-là qui soit demain en position d'accorder tous les crédits de recherche sur les questions de sécurité dans le pays. Ce qui est quand même, je trouve, un pied de nez assez intéressant dans un contexte de raréfaction des crédits et de mobilisation dans les universités.
Alors, je crois, on m'informe en fait qu'il y a un appel d'un auditeur. Donc, peut-être que c'est Alain. Non, je ne pense pas.
Alors, nous mettons tous nos casques pour l'entendre. J'espère qu'on va entendre sa voix.
Allô ?
Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas Alain Bauer.
Non, c'est pas Alain Bauer. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi j'avais une question à poser.
Allez-y.
Aux intervenants là en ce moment. Donc je voulais savoir, ma question c'est est-ce que la judiciarisation de la répression sous couvert de l'antiterrorisme n'est pas un piège et qui nous enferme et nous éloigne du fond politique anticapitaliste de la lutte ? Une espèce de manip pour nous occuper, etc.
Une espèce de
manip. Et puis que, donc, ça, de ce fait, ils nous emmènent sur leur terrain, quoi.
Alors, je ne sais pas, est-ce que l'un de vous a envie de répondre à, ce, à cette question-là ?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est une question centrale par rapport à l'émission. La question de l'antiterrorisme et du piège de rentrer, effectivement, peut-être qu'il faut effectivement refuser radicalement cette métaphorisation du terme. De terrorisme, peut-être qu'effectivement là on était dans le dans disons le contexte plus général de la sécurité et on aimerait bien effectivement amener nos auditeurs à venir ensuite parler plus précisément de la question de l'antiterrorisme d'un point de vue juridique, politique, évidemment des conséquences que cette notion et ce mode de gouvernement impliquent.
Oui, juste un mot, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois que c'est, on va débattre beaucoup de la justice antiterroriste dans la suite du débat. Je crois que ce qui est important à ce moment peut-être de l'émission, c'est de préciser qu'à la fois il existe, je dirais, des logiques spécifiques à l'antiterrorisme. C'est-à-dire, l'antiterrorisme a des logiques propres, une histoire propre, et qu'en même temps, cette histoire n'est pas, elle est indépendante. Il y a des institutions qui sont des institutions spécialisées. On va voir que la justice antiterroriste, ça marche pas exactement comme la justice classique, que la police antiterroriste n'est pas tout à fait la même chose. Et en même temps, toute cette spécificité est prise dans un contexte plus général et il existe des effets d'aller-retour avec le contexte plus sécuritaire donc qu'on est en train de décrire. Je pense que c'est pour ça que c'était important de penser, si vous voulez, de décrire d'abord faisant ce contexte avant d'en venir plus spécifiquement, je dirais, à quelque chose, à la question que vous soulevez, dont on va, je crois, très largement débattre.
D'accord.
Au revoir.
Merci pour votre question.
Merci.
J'espère qu'on y répondra.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Donc, émission ce soir consacrée au contre-terrorisme comme mode de gouvernement avec Didier Depas du syndicat de la magistrature. David Depas, hein, désolé.
Même Depas.
Depas, alors double faute du syndicat de la magistrature. C'est Alain
mal,
Brossat, là je me plante pas, c'est ça.
Non, voilà. C'est Brossat.
Alain Brossat, philosophe et prof à Paris 8, et donc Laurent Bonelli, là c'est difficile de alors, faire Laurent Bonelli, mais bon, c'est pas bon, qui est enseignant en sciences politiques à Paris 10. Donc David, tu souhaitais, je crois, dire quelque chose
non, je par rapport à la discussion qu'on soulevait sur le sécuritaire. Je souhaitais revenir sur un petit élément, à mon avis, essentiel dans ce contexte dit sécuritaire, qui évoque les transformations dont parlait tout à l'heure Laurent Bonelli et ce climat de peur. Je crois qu'on ne peut pas parler de sécuritaire sans évoquer cette question fondamentale de l'alignement de la justice pénale des mineurs sur celle des majeurs. On a depuis quelque temps une tendance extrêmement préoccupante de la loi française qui vise à oublier que notre jeunesse et que les jeunes sont avant tout des êtres en devenir, pour leur faire application du droit commun des majeurs. Alors ça passe par des procédures d'urgence comme les comparutions immédiates quasiment. Ça passe aussi, évidemment, chacun s'en souvient, par les propositions de la commission Varinard qui privilégie, là encore, des solutions d'enfermement au détriment de la prise en charge éducative en milieu ouvert. Et tout ça est une pente extrêmement périlleuse. C'est également la création, hein, dans les propositions de cette commission, d'un tribunal correctionnel pour les 16-18 ans. Enfin bref, il est clair qu'une société qui se méfie à ce point de sa jeunesse n'est pas une société en très bonne santé. Et je crois que lorsqu'on évoque la question du sécuritaire, il faut toujours avoir à l'esprit aussi cette problématique-là, puisque on parle là de mineurs qui sont entre 13 et 16 ans, entre 16 et 18 ans, et on va un peu vite sur le fait que on se laisse un peu peut-être, on subit un petit peu un discours officiel sur les dangers de la délinquance des mineurs, etc. Et ça entraîne des renoncements sur des principes qui sont ceux magnifiques, hein, de l'ordonnance de 1945, qui invite la justice à réfléchir avant tout à des solutions éducatives avant de taper brutalement et de proposer l'enfermement.
Oui, oui, c'est vraiment intéressant que tu reviennes là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de mesures, finalement, tu disais anarchiques, enfin, disons, très hétérogènes, peut-être, et tellement hétérogènes qu'on on peut se demander quelle est la cohérence. Bien sûr, elle est sous-entendue, mais c'est quand même de nombreuses mesures qui semble témoigner d'une certaine désespérance même dans la profusion et aussi l'éclectisme. Ça va un peu dans tous les sens, hein, on le voit bien. T'as noté ça. On peut se demander aussi qu'est-ce que ça veut dire les enfants de moins de 3 ans suivis par des psychiatres. Effectivement, donc là, tu rappelais le durcissement de la justice. Pour les mineurs, il y avait le droit au devoir des familles, le fichier Edwige. Enfin, c'est quand même un contexte très foisonnant, disons, très créatif à ce niveau-là. Oui, Laurent ?
Mais moi, j'ai une hypothèse là-dessus, puisque c'est un peu la conclusion des travaux que j'ai pu mener sur cette question. C'est que précisément, enfin, ce qui aujourd'hui, en matière de ce qu'on appelle la sécurité urbaine, problème de banlieue, etc., ce qui est en jeu fondamentalement, c'est des formes de discipline qui ont fonctionné durant le système fordiste, en discipline scolaire, discipline familiale, discipline à l'usine, etc. C'est-à-dire des formes qui existaient finalement pour normer, si vous voulez, les individus les plus difficiles. C'est-à-dire, grosso modo, dans cette période-là, la justice, finalement, et la police n'avaient, grosso modo, à traiter que vraiment les plus récalcitrants d'un système qui, grosso modo, fonctionnait assez bien en matière disciplinaire. Donc ça a été montré par Foucault, par tout un tas de gens sur cette période-là. Précisément, ce que je crois, c'est qu'à partir des transformations, notamment fondamentales, du monde de l'emploi, du rapport à l'emploi des jeunes populaires, de certaines fractions des jeunesses populaires, etc., on a des formes de discipline qui se sont défaites. Et on a des tentatives qui se développent, pas simplement en France d'ailleurs, je dirais un petit peu échevelées, un petit peu désespérées, de reconstituer des disciplines. Alors d'un côté, on va attaquer les parents, l'autorité des parents, avec effectivement des conseils des droits et devoirs des familles, ce genre de choses-là. De l'autre côté, on va psychiatriser. Bon, très bien. De l'autre côté, on va mettre de la technologie, des caméras de vidéosurveillance. Et je crois que finalement, ces tentatives multiples qui ont des sources différentes, c'est justement cela. C'est justement ça, ce foisonnement, et qui explique qu'on est une grande difficulté à trouver une cohérence à toutes ces mesures-là. Mais fondamentalement, ce qu'il y a, c'est comment est-ce qu'on peut discipliner ces jeunes qui foutent le bordel? Finalement, je crois que la question fondamentale, elle est là. Et on voit, selon les lieux, selon les moments, 36 types de solutions qui y sont apportées et qui, fondamentalement, fonctionnent aussi mal les unes que les autres.
Ouais, donc c'est intéressant. En fait, moi, ce que j'entends comme une espèce de... Oui, comme fond, quand même, c'est effectivement une population qui est d'abord visée, pas seulement. Mais c'est quand même ce que tu disais, David, tout à l'heure, la question de la jeunesse aussi, hein, qui est directement visée, effectivement.
Jeunesse populaire, je dirais.
Jeunesse populaire, oui, qui est peut-être la majorité de la jeunesse de notre pays, d'ailleurs, en nombre. Effectivement, oui, pardon.
Oui, juste avec comme corollaire quelque chose aussi d'assez préoccupant, c'est-à-dire un discours très dur vis-à-vis finalement des populations les plus vulnérables, les jeunes, les populations immigrées, etc. Et très souple vis-à-vis de la délinquance économique, hein, puisqu'on a mis sur pied une commission qui vise à réfléchir à la dépénalisation du droit des affaires. Donc cette logique du deux poids deux mesures apparaît comme réellement de plus en plus inquiétante, puisque finalement la loi pénale aujourd'hui n'aurait vocation qu'à sanctionner les petites gens, les gens qui souffrent, qui ont des difficultés, et non pas la délinquance, pourtant très complexe et très fournie, économique et financière.
Mmh. Oui, donc c'est vrai de le rappeler, les couches les plus populaires, et puis effectivement, quand même, la question des étrangers en France, en situation irrégulière, mais peut-être qu'effectivement, tant que ça ne touchait que les immigrés, les gens se sentaient peut-être un petit peu moins concernés, effectivement, avec des mesures comme le fichier Edwige, etc. Là, ça peut peut-être toucher directement nos enfants. Donc, peut-être aussi, il y a eu des réactions un petit peu plus... immédiatement brutal, non ?
Juste un mot sur la question des étrangers. Je crois que la question des étrangers, à la différence de ce qui est en train de se passer, qu'on décrit sur la justice des mineurs, etc., je crois qu'il y a une fondamentale hypocrisie. Je crois que là-dessus, on est en plein cœur de la symbolique et de la gesticulation politique. C'est-à-dire que d'une part, il y a une gesticulation sur les expulsions, qui est absolument tragique, qui a des effets dramatiques sur les vies d'individus, qui font vivre des communautés entières dans la peur. Ça, c'est un fait. Et à côté de ça, une hypocrisie faramineuse, que moi, j'ai trouvé dans un certain nombre d'entretiens avec des gens des forces de l'ordre, sur la nécessité du travail clandestin dans notre pays. C'est-à-dire que, certes, on a quelqu'un comme Hortefeux qui se gargarise d'avoir expulsé 27 000 personnes cette année. Mm-hmm. Et en même temps, il existe des centaines de milliers de gens qui travaillent clandestinement dans les vergers du Sud, qui font les vendanges, qui travaillent dans le bâtiment, etc.
Peur de rien au niveau...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai des policiers qui disent en entretien, ils disent, attendez, les 27 000, si on veut les arrêter, on les arrête dans la journée. Mm. Et de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe quand, en Dordogne, vous avez un chef d'entreprise qui emploie des clandestins, qui a un contrôle des inspecteurs du travail, qui tue deux inspecteurs du travail? On a quelle déclaration du ministre du Travail de l'époque? Oui, ce drame doit attirer notre attention sur les charges qui pèsent sur ces petits exploitants. Je crois que vous imaginez le discours, le niveau de cynisme qui existe sur la question des étrangers. Donc je crois que c'est deux choses qui sont liées, mais qui ne sont pas forcément complètement similaires. On ne peut pas forcément complètement confondre. Quant à Edwige et aux mobilisations sur la question antiterroriste, je crois qu'on va y revenir.
Alors je crois qu'on a un nouvel appel d'un auditeur.
Oui, allô ?
Oui, allô ?
Oui, on m'entend ?
Oui, oui.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vos invités. Moi, j'ai simplement deux petites questions en forme d'interrogation qui pourraient éventuellement peut-être concourir au débat. Au-delà du durcissement des rapports de classe que vous avez un peu évoqué, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui redescendait. En l'occurrence, vous avez parlé des jeunes. Est-ce qu'on n'oublie pas un paramètre qui est celui de du vieillissement des populations, parce que autant on peut parler de la manière dont la jeunesse est criminalisée, autant peut-être qu'on oublie le vieillissement de la population, et puis aussi peut-être, et puis je conclurai très rapidement, donc aussi sur moi ce que j'appellerais la naturalisation, la biologisation des rapports sociaux, c'est-à-dire que face à une espèce d'échec des réformes, enfin du discours déterministe dans le sens marxiste, libertaire, enfin tel qu'on peut l'entendre d'un point de vue d'une extrême gauche, une extrême gauche extra-parlementaire, on va dire, est-ce qu'on n'assiste pas aussi à un retour en force de moi ce que j'appelle d'un discours naturalisant ou biologisant, parce que finalement tous les discours déterministes de gauche au sens large du terme sont vus un peu écroulés avec le projet communiste, par extension, enfin de manière beaucoup plus globale, hein, pas particulièrement du projet libertaire. Enfin, en tout cas, face à cette naturalisation des rapports, à cette biologisation...
Oui, c'est intéressant, la question de la naturalisation, ce que vous appelez naturalisation.
Oui, ce que j'appelle naturalisation, c'est-à-dire que, évidemment, c'est toujours le débat sarkozyste entre l'inné et l'acquis. Enfin, a priori, pour Sarkozy, il y aurait plutôt de l'inné. Mais est-ce qu'on n'est pas, justement, parce qu'on n'a pas pu faire quoi que ce soit en termes de d'échecs scolaires ou de rattrapage, de cette délinquance dite à rattraper, est-ce que justement, parce que l'échec de l'utopie sociale de gauche au sens général, même si je ne me considère pas comme de gauche, mais enfin, face à cet échec-là, face à l'échec du communisme, face à l'échec du projet social, socialiste, libertaire, comme on peut l'appeler, est-ce qu'on n'est pas revenu un peu à des rapports essentialistes, biologisants, naturalistes, et est-ce que c'est justement pas ce que la technologie et le discours sécuritaire essaient de rattraper, ceci qui va de pair justement avec, enfin, il se sert d'ailleurs électoralement, à juste titre, de cet électorat vieillissant qui a presque, je dirais, légitimement peur, quoi, puisque il fait partie de cette couche sociale presque pas majoritaire, mais enfin Sarkozy a gagné quand même, quand on regarde plus particulièrement les statistiques, il a gagné majoritairement avec les vieux, quoi.
Voilà. Oui, alors je pense que justement, c'est une bonne question à laquelle peut-être pourrait répondre notre invité. Oui, mais à laquelle Alain Brossat pourrait peut-être essayer de répondre, en tous les cas.
Alors, en tout cas, bonsoir.
Juste oui, un mot à propos de la deuxième partie de la question, effectivement, où je partage beaucoup de enfin l'essentiel de ce que vous avez dit sur cette naturalisation, c'est-à-dire on est effectivement dans le retour d'une sorte de discours du 19e siècle qui est un discours disons péjoratif, qui est un discours des élites, puisque dans les rapports de classe actuels qui sont extrêmement défavorables disons à l'élément populaire, les prétendues élites et les gouvernants ont toute latitude, effectivement, pour pratiquer, développer tout un discours de dépinglage, et effectivement avec un arrière-plan biologique de tout, disons, un élément populaire décrié. Donc, en tant que tourbe, racaille, etc. Et au moment des émeutes de l'automne 2005, on a bien vu, effectivement, cet effet donc de désignation de ce qui est le reste inintégrable de la politique parlementaire comme une plèbe barbare. Et effectivement, là, on va considérer qu'il n'y a aucune espèce de subjectivité politique, qu'il n'y a qu'une agitation ingouvernable et qu'il faut essayer de polisser. Mais ça renvoie au fait que, tout simplement, plus la politique est éteinte, moins il y a de politique vive, moins il y a de peuple, disons, au sens politique du terme, plus il y a cette possibilité, effectivement, de naturaliser ou de biologiser, comme vous voulez, le populaire qui serait susceptible d'être l'élément dans lequel la politique pourrait renaître. Et donc on va revenir, je dirais, dans l'effondrement, disons, de la lutte des classes dans ses formes d'institutions habituelles, à un schéma plus archaïque qui est celui de la guerre des espèces, qui est une chose dont parle Foucault dans certains de ses textes, une guerre des espèces, donc, et ça au moment, encore une fois, dans le moment des émeutes, c'était tout à fait clair, et là, on est vraiment dans un point d'effondrement radical de la politique, parce que quand on est dans le schéma de la guerre des espèces, du côté des élites, en tant qu'ils pensent cette guerre, il y a un doute extrêmement fort quant à l'humanité même de ce qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire, ce qu'ils ont en face d'eux est établi dans une espèce d'indistinction entre humanité et animalité. Et si vous lisez la presse de l'automne 2005, vous verrez la prospérité de ces images, de ces métaphores pour désigner cette engeance des cités dont l'humanité n'est pas pleinement constituée.
Mais est-ce qu'on n'a pas été pris au piège un peu de notre... des discours justement, comment dirais-je, peut-être que je vais, il y a que moi qui vais me comprendre, mais est-ce qu'on n'a pas biologisé à outrance, naturalisé de la biologie et biologisé la nature humaine, c'est-à-dire que espèce de renvoi comme ça autour des 70, et ce que je dis par rapport aux rapports sociaux, aux rapports de classe, on le voit aussi bien, notamment au niveau du corps, au niveau des rapports amoureux, c'est-à-dire que aussi bien dans la quête identitaire, de son corps, rapport amoureux, même du sexe, on a biologisé, on a eu tendance à biologiser et à naturaliser des choses qui ne l'étaient pas, et inversement, je ne sais pas si je suis très clair.
Ce que vous tendez à dire, en gros, c'est que ce qu'on traite ici ce soir, c'est-à-dire en fait la question de la politique sécuritaire et plus largement des politiques d'exception dont relève d'ailleurs de plus en plus le contre-terrorisme comme mode de gouvernement, se soutient de tout un ensemble de discours et de pratiques de naturalisation, où effectivement, souvent, comme le rappelait Alain Brossat il y a un instant, une sorte de zone d'indétermination se crée entre animalité et humanité. On a besoin quelque part de traiter l'autre comme une part extérieure à l'humanité. Finalement, et un bétail indocile. Mais peut-être qu'on va... Excusez-moi, en fait, mais il faut qu'on avance dans l'émission. Donc, on vous remercie de votre question et on va prendre d'autres appels après. Et... Oui, donc vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Ce soir, la question que l'on va explorer très longuement jusque tard dans la nuit, c'est celle du terrorisme comme mode de gouvernement, du contre-terrorisme comme mode de gouvernement aussi, du terrorisme d'État et aussi des politiques de contre-terrorisme
commode de gouvernement. Vous pouvez appeler Radio Libertaire au 01 43 71 89 40. Donc nous sommes ce soir avec Laurent Bonelli, Alain Brossa, qui va pas tarder à nous re-rejoindre, et David Depas, voilà.
C'est pas le parisianisme à pas prononcer les S finales.
Absolument, c'est un nom qui vient du sud.
Ok, donc on était en train de décrire un petit peu le contexte sécuritaire dans lequel on est, et peut-être que c'est le moment de venir plus précisément à la question de l'antiterrorisme et de ses spécificités, hein, je pense. Donc, pour commencer, on l'a dit en début d'émission, dans la chronique, aujourd'hui, en dehors de l'affaire de Tarnac à proprement parler, d'autres personnes ont fait l'objet d'une instruction antiterroriste. Alors, peut-être pour commencer, quelles sont les transformations, tout simplement légales, qui ont permis dernièrement à ces personnes d'être inculpées au nom de terrorisme? Comme vous voulez.
Non, enfin, je crois que c'est fondamentalement...
Laurent Bonelli.
Oui, non, pardon. Non, je te le donne la parole dans un instant sur les dispositifs judiciaires. Enfin, je crois qu'il faut d'abord avoir en tête que on est sur une radio militante. Ce sont des militants qui écoutent. Je crois que d'abord, il faut avoir en tête que le dispositif antiterroriste, il touche actuellement des militants d'extrême gauche, etc. Enfin, il est quand même déployé très très lourdement sur les nationalistes corses, sur les nationalistes basques, sur les islamistes, depuis beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus massive. Je crois que c'est un premier point. Alors, je crois que ensuite, je crois qu'on va venir sur les figures particulières de l'antiterrorisme, mais si on doit retenir un petit peu quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Enfin, il y a des évolutions récentes, mais je dirais la structure même, c'est-à-dire la colonne vertébrale de l'antiterrorisme français, elle date pas d'hier, elle date même pas du 11 septembre 2001, elle date de 86. Si vous voulez, l'histoire de l'antiterrorisme français, c'est quoi? C'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, la dissolution de la Cour de sûreté de l'État, c'est-à-dire d'un dispositif qui avait été mis en place au lendemain de la guerre d'Algérie pour lutter contre l'OAS notamment, et qui dans les années 70 s'était converti en un symbole de la répression contre précisément les mouvements de gauche. Donc une des premières mesures du gouvernement élu en 81 est d'abolir la cour spéciale. Mais ça va durer très peu de temps, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, les délits liés à la violence politique vont être reversés dans le droit commun. Ça va durer très très peu de temps. Vous avez une série d'attentats qui marquent la France au tournant des années 80, dans le milieu début des années 80, lié essentiellement à la situation moyenne-orientale d'ailleurs, qui fait que dès 86, je dirais, le système antiterroriste redevient centralisé. C'est notamment une loi qui est centrale, qui est la loi de 86, qui est une loi qui d'abord centralise la justice antiterroriste, c'est-à-dire que toutes les affaires relevant du terrorisme sont centralisées entre les mains de la 14e section du parquet de Paris, entre les mains d'un cabinet de juges d'instruction spécialisé, à l'époque confié à Gilles Boulouk, pardon, puis par la suite à Jean-Louis Bruguière, bon, qui est fameux, mais bon, ce sont des noms...
Alors pourquoi il est fameux ?
Il est fameux parce que, précisément, ce sont des juges qui vont devenir très très médiatiques, puisqu'à chaque fois qu'une affaire terroriste, on en parle, ce sont eux qui sont sur le devant de la scène. Donc, on va en revenir un mot. Donc, centralisation, vous voyez, du parquet, centralisation des juges d'instruction. Les lois, par la suite, vont continuer la spécialisation de cette justice antiterroriste avec l'instauration, dès 92, de jurés spéciaux pour les assises, c'est-à-dire de magistrats professionnels pour les jurés d'assises. Puis, on va continuer cette spécialisation. La loi de 2006 instaure un juge d'application des peines, non pas spécial antiterroriste, mais disons que l'application des peines antiterroristes va être concentrée sur le TJ de Paris. Et, ça peut-être, David, on va en dire un peu plus, et on parle même d'avoir maintenant des présidents d'assises spécialisés sur cette question-là. Oui, je te laisse peut-être, vas-y.
Non, absolument, non, mais je te laisse terminer. Moi, je pense que, pour bien comprendre de quoi on parle, il me semble qu'il faut qu'on revienne un peu aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Quelle est la définition française du terrorisme? Il faut bien comprendre en fait qu'en droit français, le terrorisme se définit par le mobile. Commettre un acte terroriste, c'est participer à telle ou telle infraction dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc sont englobées dans ces infractions les atteintes volontaires à la vie, la séquestration, le détournement d'avions, le navire, etc., les destructions, les dégradations et toutes sortes d'autres infractions. En fait, quand on part de la définition, on se rend compte que, on voit bien que la terreur, c'est une expression qui est assez parlante. On pense immédiatement à l'attentat sanglant, au détournement d'avion, etc. Mais l'intimidation est un terme plus malléable, qui est sujet à des interprétations, disons, assez extensives. Et il faut bien prendre garde à ce que cette définition du terrorisme, et c'est l'objet de la réflexion de ce soir, n'englobe pas autre chose que précisément des actes sanglants, la terreur, etc. Pourquoi ? Parce que le traitement judiciaire du terrorisme est soumis à un régime dérogatoire incroyable. Laurent Bonelli l'a esquissé rapidement en parlant principalement des questions de compétences particulières à Paris, mais il n'y a pas que ça. Moi, je souhaiterais en dire un mot, si ça ne vous ennuie pas, parce que c'est essentiel de les évoquer pour savoir de quoi on parle. C'est des pouvoirs d'enquête qui sont substantiellement renforcés. C'est la possibilité de mettre en place des écoutes téléphoniques par le procureur de la République, par l'accusation directement, alors que normalement ça appartient à un juge d'instruction. Alors bien sûr, il y a, nous dit-on, le contrôle d'un juge des libertés de la détention, mais enfin, en terrorisme, en matière de terrorisme, le parquet peut procéder à des écoutes téléphoniques. L'infiltration est possible. Les gardes à vue, évidemment, sont de très longue durée, puisqu'on passe d'un droit commun de 48 heures à 96 heures, voire 120, voire encore plus, avec, et c'est un élément essentiel, un entretien possible avec un avocat qu'au bout de 72 heures. C'est-à-dire qu'une personne est retenue dans une enceinte policière avec des interrogatoires, etc., sans pouvoir échanger avec un conseil pendant 72 heures. Alors que le droit commun, une rencontre avec un avocat, est possible dès la première heure. Donc on se demande d'ailleurs quel est l'intérêt de cette législation d'exception.
D'ailleurs,
pourquoi
on va y venir massivement.
Pourquoi n'a-t-on pas, ne considère-t-on pas que le droit de la défense doit aussi avoir sa place dans la procédure antiterroriste? Je poursuis mon petit inventaire pour que nos auditeurs comprennent bien.
Bien sûr,
oui. On peut aussi perquisitionner de nuit. Vous savez que le droit commun prévoit de 6h à 22h, là on peut perquisitionner la nuit. On peut perquisitionner en l'absence des personnes soupçonnées, lorsqu'elles sont détenues ou gardées à vue. J'ajoute que les peines, lorsque la qualification terroriste est retenue, sont beaucoup plus lourdes, significativement plus lourdes, puisque on passe de 30 ans... lorsque une peine en droit commun est encourue à 30 ans, on passe à la réclusion criminelle à perpétuité, on passe de 20 à 30, de 15 à 20, etc. Donc c'est réellement considérable, avec des délais de prescription rallongés également. La prescription des crimes terroristes est rallongée à 30 ans au lieu de 10 pour le droit commun. Pour les délits, on passe de 20 ans au lieu de 3 ans. Donc, c'est une procédure réellement dérogatoire qui mérite, pour le moins, qu'elle n'embrasse pas autre chose que vraiment ce pourquoi elle a été créée à l'origine, bien qu'il y ait bien évidemment des réserves à formuler aussi sur le sens de sa création. Et j'insiste pas sur la compétence particulière du tribunal de grande instance de Paris, parquet, juge d'instruction, formation de jugement et juge d'application des peines. Finalement, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a sorti aussi le jury populaire, qui est pourtant finalement le grand apport du procès criminel, puisque vous savez que normalement, les crimes de droit commun sont jugés par des magistrats professionnels et par des citoyens. Et là, ils sont sortis du procès. Ils n'ont aucun regard possible sur les faits, sur la décision à rendre, etc. Finalement une façon de juger entre soi, et qui montre bien qu'il s'agit d'un arsenal juridique à manier avec une extrême précaution si l'on ne souhaite pas qu'il serve d'autres finalités.
Alors oui, justement, donc je pense qu'on peut rentrer vraiment au cœur de l'implication de toutes ces mesures. Et qu'est-ce que signifie, tout à l'heure tu le rappelais, Laurent, cette figure juridique finalement dans les années 1986, hein, si je me souviens bien, d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Alors, que permet-elle finalement? Est-ce que c'est pas une façon de revenir sur la présomption d'innocence? Est-ce que c'est pas une espèce de législation d'exception? Hein, qu'est-ce que ça signifie? Et puis, évidemment, est-ce que ça ne permet pas de confondre la figure du suspect et la figure, finalement, du coupable?
Alors, je voudrais dire un mot, je vais te laisser ensuite développer sur l'AMT, mais il existe une tension permanente, pas simplement en France, en matière de lutte antiterroriste. C'est-à-dire que il est considéré à peu près partout que la législation criminelle normale, je dirais, ne suffit pas. Pour une raison très simple, c'est que comment fonctionne la législation criminelle classique, je dirais la procédure judiciaire classique. Quelqu'un commet un délit, il est arrêté par la police, on apporte des preuves de sa culpabilité et il est jugé pour un fait qu'il a commis. Ça, il en va ainsi pour un braquage, pour n'importe quoi. La tension en matière d'antiterrorisme, c'est que précisément, il ne s'agit pas la plupart du temps d'agir après la commission du délit, mais puisque,
sur des preuves, quoi,
mais finalement. Puisque les délits sont des délits potentiellement très graves, des attentats par exemple, mm-hmm. Il s'agit d'agir en amont de la commission de l'infraction. D'où un dilemme qui est comment punit-on des gens pour un acte qu'ils n'ont pas encore commis? C'est une vraie question. Alors, cette question, elle est résolue différemment selon les pays. Mais cette question se pose partout. Alors, les Américains, après le lancement de la guerre contre le terrorisme, de la guerre globale, de la Global War on Terrorism, après le 11 septembre 2001, ont choisi une voie militaire de réponse au terrorisme. Ça a été à la fois l'attaque de l'Afghanistan et de l'Irak. Mais, je dirais, ils sont allés très très loin dans ce qu'on pourrait appeler des logiques sacrificielles. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert le camp de Guantanamo, ils se sont livrés à des enlèvements de suspects, ils ont eu recours à la torture. C'est, dans une certaine mesure, on pourrait dire, l'espèce de quintessence des logiques du renseignement. Logique du renseignement, c'est-à-dire pouvoir extraire de l'information sans aucune contrepartie des droits, si vous voulez, de garantie des droits du prévenu. En l'occurrence, Guantanamo, on ne juge pas des gens pour des actes qu'ils ont commis, on ne leur reproche même rien. La seule question, c'est de pouvoir extraire des droits. Alors, c'est particulièrement caricatural. Vous me direz, ben voilà, mais non, mais Guantanamo, quand même, Obama, qui vient d'être élu, va très certainement fermer Guantanamo.
Je signale juste que les gens, à nos invités, que finalement les gens qui nous écoutent ce soir ne sont pas dans leur télé en train d'écouter le discours d'investiture d'Obama.
Ben, c'est pas nécessaire puisque c'est Ségolène Royal qui l'a inspiré, a-t-elle dit aujourd'hui. Donc ils ont déjà écouté Ségolène Royal, ça suffisait.
C'est déjà réglé.
Bref, donc ce que je voulais dire, c'est que on a l'exemple particulièrement caricatural des États-Unis, mais il faut rappeler par exemple que la Grande-Bretagne, je dirais dans l'Anti-Terrorist Crime and Security Act de 2001. Permet la détention illimitée et sans procès d'étrangers soupçonnés de terrorisme et qui refuseraient d'être expulsés. Et d'ailleurs, 17 personnes étaient ainsi détenues à la haute prison de haute sécurité de Belmarsh jusqu'à 2004, où la Chambre des Lords a déclaré cette mesure illégale. Et pour ce faire, la Grande-Bretagne est sortie de l'article 5 de la CEDH, de la Convention européenne des droits de l'homme. En France, cette question, et c'est d'ailleurs en partie pour cela que les professionnels de l'antiterrorisme se gargarisent d'avoir le meilleur système du monde, c'est pas moi qui le dis, ce sont des professionnels de l'antiterrorisme, dont Jean-Louis Bruguère, dont on parlait, c'est que précisément, la question de la possibilité du renseignement, extraire du renseignement, en étant appuyé par une logique judiciaire qui n'est pas forcément une logique judiciaire qui emporte avec elle la protection, grosso modo, se concrétise dans la figure de l'association de malfaiteurs en relation avec entreprises terroristes. Je vais juste dire un mot là-dessus, puisque bon, il y a eu des débats très durs sur l'AMT, tu vas peut-être pouvoir la définir très concrètement, mais l'AMT permet deux choses. Elle permet d'abord d'arrêter des gens, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui porte sur les intentions. D'accord ? Quelque chose qui porte. Jean-Louis Bruguière le disait, il dit c'est de la neutralisation. Non, c'est Pierre Bousquier de Florian, qui était le patron de la DST. Il dit c'est de la neutralisation judiciaire préventive. C'est-à-dire ça nous permet de neutraliser judiciairement de manière préventive. Je crois que l'expression
est très très intéressante. Neutralisation judiciaire préventive. C'est quoi ? Ça permet tout simplement donc de pénaliser les intentions. Alors, ça veut dire que on va pouvoir arrêter de manière extraordinairement large des gens qui sont liés de près ou de loin à la commission d'une infraction. Alors, ça permet de faire ce que les professionnels de l'antiterrorisme appellent le coup de pied dans la fourmilière. Coup de pied dans la fourmilière, ça veut dire quoi ? On ouvre une commission rogatoire contre X sur association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et on peut arrêter de manière très large des gens. C'est dans ce cadre-là que les gens de Tarnac ont été arrêtés.
Oui, c'est-à-dire que... Pardon, vas-y.
Non, je termine. Oui. Juste, ça permet donc d'arrêter de manière très large des gens, qui la plupart du temps d'ailleurs seront relaxés au procès, si tant est qu'il y ait procès. La plupart n'arriveront pas au procès. On l'a vu très nettement dans l'affaire Chalabi, par exemple. Les gens n'arrivent pas au procès.
Alors, peux-tu rappeler aux auditeurs le contexte ?
C'était suite au contexte algérien. C'était suite à la guerre civile algérienne.
Tout à fait. Donc, il y a eu une méga arrestation. On a arrêté plus de 150 personnes. Et au final, les deux tiers ne sont pas arrivés au procès. Parmi ceux qui sont arrivés au procès, l'immense majorité a été relaxée. Mais vous avez donc... Ça permet d'un côté, effectivement, d'arrêter de manière extrêmement large des gens qui vont rester en détention préventive. C'est ce que les professionnels disent, ça permet de désorganiser les réseaux. C'est sans doute vrai, mais à quel prix ? Et deuxième chose, ça permet de condamner des gens contre lesquels les autres éléments de preuve sont très peu développés. Pensez quand même que, selon les chiffres de la chancellerie, il y a entre 50 et 80% des gens chaque année, qui sont condamnés pour faits de terrorisme, qui sont condamnés au titre de l'AMT, donc l'association de malfaiteurs, comme peine principale. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien de plus grave contre. Mais peut-être peux-tu en dire un peu de la logique et de son évolution.
En deux mots, en donner une définition, c'est vrai que c'est une incrimination quasiment par anticipation. Comme l'a exposé très clairement Laurent Baudély, en fait, si vous voulez, c'est une infraction qui est calquée sur ce qu'on retrouve ailleurs dans le code pénal avec la bande organisée. Il s'agit en fait, très, très clairement, pour l'association de malfaiteurs, de tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, et c'est là qu'on est dans le pré-délit ou dans le pré-crime, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels d'un crime ou d'un délit puni de moins de 5 ans. Voilà, donc c'est en fait sur la suspicion d'un projet que les enquêteurs et ensuite la justice antiterroriste va travailler dans l'idée de prévenir le passage à l'acte terroriste donc... avec malgré tout ce risque majeur d'atteinte, bien sûr, à la présomption d'innocence, mais surtout ce risque majeur d'incarcérer et de mettre en cause des personnes qui ne sont que très, très, très lointaines par rapport à la cible originelle.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce que tu décris, il y a un développement de ce qu'on pourrait appeler, qui a quand même obtenu, on va dire, un grand succès dans pas mal de pays depuis les années 60-70, c'est la question quand même de l'incarcération arbitraire. C'est-à-dire que, quand je vous entends tous les deux, ce qui me paraît assez marquant, c'est-à-dire, est-ce qu'on est encore, là on parlait dans la première partie de l'émission du sécuritaire, mais là c'est comme si on était au-delà, finalement, d'une simple question, on va dire, sécuritaire, là on est carrément dans une volonté d'anticiper le crime avant qu'il se produise. On a des films de science-fiction, des romans de science-fiction, comme on peut penser à Philip K. Dick,
ou Minority Report,
par exemple, bon... c'est-à-dire que là, on voit que la politique d'exception, finalement, elle renverse aussi ou elle crée une sorte de justice comme ça, très très bizarroïde, avec ce fantasme de plus en plus croissant de la part du pouvoir, finalement, et qui a quand même des effets quand même très concrets sur la liberté des personnes, ce fantasme d'anticiper le crime avant qu'il se produise. Et ça rejoint peut-être aussi le fichage. Enfin, est-ce qu'on est encore dans le sécuritaire avec tout ça, finalement ?
On peut se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un basculement ? Fait, effectivement, de faire des lois d'exception, de prendre des mesures préventives, est-ce qu'il n'y a pas un glissement ? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore du sécuritaire ?
Non, je crois qu'attention, il faut être très clair. Je crois qu'il faut, si on veut pouvoir y compris affronter ce qui se passe, je crois qu'il faut être très clair, il faut éviter les amalgames. Et je crois que là, il y a véritablement deux logiques qui s'affrontent. Il y a une logique, je le disais tout à l'heure, qui est une logique de police criminelle. C'est-à-dire de trouver la preuve que des gens ont commis une infraction. La logique ultime, si vous voulez, la logique ultime de la police criminelle, quelle est-elle ? D'avoir, on la retrouve dans la question du fichage génétique. C'est-à-dire d'avoir un fichier de population sur des bases génétiques, grosso modo, comme c'était auparavant avec les empreintes digitales, où l'ensemble de la population, donc à chaque fois qu'un délit est commis, on pourrait retrouver des éléments matériels qui permettent ensuite d'aller chercher dans le fichier les coupables d'un délit. Ça, c'est une logique de police criminelle. On reste, malgré tout, si vous voulez, dans une logique d'apporter la preuve. La logique du renseignement est une autre logique. Elle est la logique de l'anticipation, précisément. C'est-à-dire qu'on entend très peu la police proactive en matière de crime. On entend, par contre, en matière de terrorisme, parce que, autant il semblerait qu'on soit prêt à assumer que, grosso modo, il y ait des braquages, il y ait des vols, il y a un certain nombre, y compris des crimes, mais on n'est pas prêt à assumer qui est le terrorisme, et notamment des crimes importants qui peuvent avoir des centaines de victimes, etc. Parce qu'il y a des effets politiquement déstabilisateurs, etc. Et là, on est sur une autre logique, qui n'est pas celle d'un fichage généralisé, qui est impossible pour un certain nombre de services de renseignement, mais qui est la logique du profilage. C'est-à-dire de l'élaboration et de la surveillance fine d'un certain nombre de groupes et d'individus. Alors de lieux, je pourrais dire, de groupes et d'individus. Avec là encore une double logique dans le renseignement, la version technologique, qui est notamment celle développée par le BKA allemand, c'est-à-dire la police fédérale, les services de renseignement de la police allemande, vont très loin en ce sens, c'est-à-dire l'élaboration de profils types de gens qui sont prêts à passer à l'acte. C'est-à-dire on prend des gens qui sont passés à l'acte violent et on fait à partir de ça des bases de données desquelles on tire un certain nombre d'éléments, si vous voulez, qui permettent d'élaborer un profil type, comme d'ailleurs on le faisait en matière bancaire. Vous savez qu'aujourd'hui, les logiciels de police qui sont les logiciels de profilage, ce sont des logiciels qui viennent du système bancaire. C'est-à-dire, vous savez, les banques font des profils de mauvais payeurs, par exemple, ou de gens à qui on ne peut pas donner des crédits. Là, vous avez la même chose. Et une autre version, qui est la version non pas technologique, mais plus humaine, et la version humaine, c'est plus proche de la police française, c'est-à-dire la surveillance de certains groupes, certaines mosquées, certains groupes politiques, certains individus auxquels on s'intéresse, aux entourages, etc., etc. Vous savez, c'est deux logiques, à mon avis, qui sont différentes, même si, je dirais, elles se confondent, effectivement, dans ce qu'on vit au quotidien.
Alors, une question que j'aurais aimé à poser à Alain Brossat par rapport à ce qui vient d'être dit. Là, tu viens de parler de profilage. Tout à l'heure, en fait, suite à l'appel d'un auditeur, tu as parlé, Alain, d'une sorte d'animalisation progressive, contemporaine, de plus en plus forte, une espèce de reconstitution comme ça d'une figure de l'ennemi intérieur très 19e siècle. Est-ce que tu vois un lien finalement entre ces politiques d'exception, cette espèce de généralisation de la politique d'exception sous forme, disons, de contre-terrorisme ? Est-ce que tu vois un lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure ? Autrement dit, pour toi, quels sont les traits les plus saillants aujourd'hui de cette politique d'exception ?
Oh, ça, c'est une question compliquée. C'est une question de philosophie politique qui est extrêmement compliquée. Je suis pas sûr qu'on puisse manier le vocable de l'exception si simplement. Ça, c'est déjà une question infiniment compliquée. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, moins il y a de politique, plus il y a de police. Et ça, on est dans la description des formes de police dans le sens le plus général. Et ce qui se désigne comme antiterrorisme, mais j'aime même pas trop qu'on emploie ce type de vocable, parce que en général, quand on commence à parler la langue de l'ennemi, on est toujours contaminé. Ouais. On subit toujours des effets de contamination. Bon, et donc ce que je voulais dire à ce propos, au fond, c'est que il faudrait quand même dire peut-être plus nettement que ça a été dit jusqu'à maintenant, c'est que le terrorisme, ça n'existe pas. C'est-à-dire le terrorisme est une construction discursive. C'est une construction discursive qui sert à construire la possibilité pour l'État de développer des pratiques d'exception. On sait très bien que, disons, entre le terrorisme, les terroristes tels qu'ils sont, c'est-à-dire les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, tels qu'ils sont désignés par l'occupant et par le régime de Vichy, et le guillemets terroriste basque d'aujourd'hui, terroriste corse, ceci, cela, il n'y a aucun rapport. Donc c'est une catégorie accordéon qui sert surtout dans sa construction même à se donner des possibilités. pour l'État, dans le cadre d'une politique répressive. Bon, et il est tout à fait clair que d'un moment à l'autre, je veux dire, avec le vocable de terrorisme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Rétrospectivement, vous pouvez dire que les gens qui sont partis comme volontaires de France pour combattre dans les brigades internationales étaient des terroristes. Et d'ailleurs, des Français, des ressortissants français, généralement des Maghrébins, qui sont partis en Irak pour soutenir la résistance, pour combattre dans la résistance irakienne, ils ont naturellement été épinglés comme terroristes et personne n'y a trouvé à redire. À ma connaissance, personne n'y a trouvé à redire. Et en quoi c'était des terroristes? C'était des gens qui voulaient combattre pour une cause qu'ils considéraient comme la leur. Ça n'avait rien à voir avec le territoire français, avec les intérêts français, avec les domaines de juridiction française. Et pourtant, donc là, on voit bien l'effet de la construction de cette catégorie. Et ça, c'est évidemment possible là où, disons, le champ est libre à la criminalisation de toute espèce d'action et de pratique radicale. Donc là, on est dans une vieille histoire. Je veux dire, là, on pense, je veux dire, ces choses-là, finalement, dans un temps qui est relativement court, mais il suffit de se rappeler le contexte de 68 et après 68. Mais la criminalisation de l'action politique radicale, elle était là constamment. Les vocables pouvaient varier, mais c'est toujours les mêmes enjeux. C'est toujours les mêmes enjeux. Dans l'affrontement, je veux dire, il y a toujours ce ressort pour, les stratégies policières de l'État, les stratégies répressives de l'État, qui est un ressort de criminalisation de tout ce qui pourrait être un projet révolutionnaire ou tout ce qui n'est pas réductible aux conditions de l'institution politique ou du discours de la pacification sociale ou que sais-je encore. Tout révolutionnaire en ce sens-là peut être rebaptisé comme un terroriste. Ça, c'est l'enfance de l'art. Donc, de ce point de vue-là, en tant que vocable politique, médiatique et juridique, le terrorisme, c'est une catégorie qui est surdéterminée par l'intention répressive. Et donc, c'est une catégorie pourrie. Il faut le dire comme ça. C'est
oui,
une catégorie
c'est très important de le
pourrie.
Rappeler, quoi.
Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Albert Camus, qui n'était pas un terroriste.
Juste un mot, je crois que c'est très très important, parce qu'effectivement, aucun groupe ne s'auto-revendique comme terroriste. Il se revendique comme avant-garde du prolétariat, combattant de l'islam, combattant de la liberté, etc. Et je veux juste dire un mot là-dessus, c'est que je rajouterai une chose, ce que tu as dit, je partage tout à fait ce que tu viens de dire, mais je dirais que c'est en plus sous-tendu par la question des rapports de force politique. Parce que, j'ai pas fait le calcul récemment, mais j'avais travaillé à l'époque dessus, vous avez eu entre 1990 et 1998 1850 attentats à l'explosif en Corse. 1850 attentats à l'explosif en Corse, dont la gendarmerie de Pietrocella qui a été totalement détruite, etc. Il y a deux rapports parlementaires qui sont parus sur l'action des forces de sécurité en Corse, très épais, une enquête très, très sérieuse, à la suite de l'affaire des paillotes, dont vous avez peut-être entendu parler. Vous regardez, sur ces deux rapports qui font plus de 500 pages chacun, le mot terroriste n'est pas employé une seule fois. On parle des nationalistes corses. C'est très important parce que effectivement, je crois que, enfin, je rejoins Dombrou, c'était juste, je voulais l'illustrer parce que précisément, c'est quelque chose. Imaginez que milliers, 1850 attentats dans une banlieue française, je dirais en 8 ans. Imaginez.
Ah, on imagine bien, ouais. David, tu voulais dire quelque chose?
Oui, moi, je voulais revenir sur l'analogie qui a été faite avec le fichage. Je pense que la petite histoire que nous commençons à voir du fichage est très importante pour réfléchir à ce que risque de devenir une extension inconsidérée de la notion de terrorisme. Je voudrais donner l'exemple du fichier national automatisé des empreintes génétiques. À l'origine, ce fichier qui est créé en 1998 avait simplement vocation, enfin simplement si j'ose dire, de répertorier les délinquants sexuels, nous disait-on, et point. Alors c'était justifié par un souci d'efficacité des enquêtes, pour éviter de nouvelles victimes mineures, etc. Mais ce fichier a connu une extension alarmante, totalement disproportionnée, qui se fait aujourd'hui à l'initiative simple du policier sans contrôle de quiconque, et qui, aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, il concernait au départ les personnes, disons, condamnées, après les personnes mises en examen, aujourd'hui c'est les personnes à peine simplement soupçonnées, et on a eu, il s'applique désormais à la quasi-totalité des infractions. Donc on fait entrer un cheval de Troie dans l'édifice juridique, dans l'arsenal répressif, qui est censé à l'origine combattre une juste cause, et qui ensuite est étendu à l'ensemble des infractions, puisque on a même créé un délit à part entière de refus de prélèvement ADN, qui est, comme vous le savez, poursuivi de manière systématique, notamment pour les militants, les faucheurs volontaires et les militants du mouvement social. Donc, il faut vraiment, je pense, profiter de ce débat actuel, en tout cas c'est ce que le syndicat de la magistrature essaie de faire avec ses petits moyens, pour alerter sur les dangers d'une extension de l'incrimination terroriste qui, si elle n'est pas une réalité, comme le disait mon prédécesseur au micro, elle est en tout cas une incrimination juridique très concrète. Hein, donc il faut aussi...
Donc finalement, c'est vrai qu'on voit que progressivement l'exception devient la règle, que finalement les frontières se brouillent dans le partage qui est voulu par des mesures effectivement répressives. Et effectivement, c'était Alain Brossa, finalement, par son intervention, nous montrer que ce n'est qu'une façon aussi de pénaliser le mouvement social et qu'il faut quand même faire attention à toutes ces dénominations, même au niveau du discours, la façon dont on parle, les mots qu'on utilise, et essayer de ne pas rentrer dans le piège. Oui, Alain.
Alors,
je dois en dire un mot là, parce que je me suis éloigné de cette question de l'exception. Il y a une confusion permanente entre deux registres de l'exception. L'exception, elle se pense du point de vue de l'État, en premier lieu, en rapport avec l'état de nécessité, c'est-à-dire une menace pesant sur l'intégrité de l'État comme une menace imminente et, disons, qui met en question l'existence même de l'État. Donc, on voit bien que dans les constitutions modernes, en général, sont prévus des dispositifs qui autorisent, sans coup d'État, qui autorisent les gouvernants, les gens qui sont au pouvoir, à recourir à des moyens extrêmes pour faire face à cet état d'urgence, soit en rapport avec une sédition interne, par exemple, soit en rapport avec une menace venue de l'extérieur. Ça, c'est l'exception à proprement parler. C'est l'exception dont parle Carl Schmitt, disons. Mmh. Bon. Mais nous, on a plutôt tendance à parler d'exception à propos d'autre chose. C'est pas de ça qu'il est question. Parce que ça, c'est ce dont s'occupe l'article 16. Or, comme vous le savez, l'article 16, on s'en sert pas souvent en France. Bon. Nous, ce qu'on appelle l'exception, c'est la façon, plutôt, dont l'État, supposé État de droit, le régime démocratique, établi chez nous comme régime parlementaire aménagé, la démocratie du consensus et tout ce que vous voulez, a constamment tendance, mais de façon variable, à transgresser ses propres normes, et notamment ses propres normes juridiques. Et ça, c'est ce que Benjamin a expliqué d'une façon absolument claire. Si vous demandez à la police de fonctionner strictement selon les règles qui lui sont fixées, etc., alors elle ne peut pas effectuer son travail. Et elle-même le théorise, et dès l'instant où on la rappelle à un certain nombre de règles déontologiques et autres, elle se met à faire la grève du zèle, et elle démontre immédiatement en faisant la grève du zèle que dans ces conditions-là, elle est totalement inefficace. Donc il y a toujours cet élément de transgression qui est là, et qui donc introduit le poison de l'exception. Ça, c'est structurel. Donc, de ce point de vue-là, l'état de droit, il est toujours relatif. Il est toujours extrêmement relatif, parce qu'il y a toujours ce retour d'un élément de violence au cœur de ce que le droit est censé encadrer. Mais le problème, c'est qu'on est de plus en plus, comme Laurent le racontait tout à l'heure de façon tout à fait probante, on est entré, là, on est dans un moment, disons, on est dans un moment où ce processus qui habituellement est un processus, disons, subreptice, devient quelque chose d'organisé, devient l'élément d'une stratégie, devient l'élément d'une politique. C'est-à-dire où systématiquement, un certain nombre de corps, comme la police, vont être encouragés à se détacher d'un certain nombre de règles et agir selon leurs propres réglementations qui vont se substituer au droit ou à produire leurs propres droits. Ça, on le voit avec la police aux frontières, par exemple. Qu'est-ce qui encadre le travail de la police aux frontières ? Voilà, franchement, c'est l'état de nécessité permanente. C'est l'état d'urgence permanent. Donc voilà, il faut. Ou bien, pour tout ce qui concerne effectivement les reconductions d'étrangers, puisqu'il faut faire le chiffre, etc. Donc voilà, ça devient une politique. Mais, je veux dire, la façon dont ça devient une politique, ça n'introduit pas un élément radicalement nouveau. Ça ne fait qu'hypertrophier un trait perpétuel, permanent, structurel du supposé état de droit. Et c'est ça qui est évidemment préoccupant, parce qu'à partir de là, on doit désidéaliser, disons, la notion même de l'état de droit.
Et ne pas tomber dans la facilité de dire c'est l'exception permanente.
Exactement, parce que ça ne veut rien dire non plus. Ça ne veut rien dire non plus.
Alors, je crois qu'on a l'appel d'un auditeur. Allô ?
Allô ?
Allô, oui.
Bonsoir.
Allô, bonsoir. Je vous écoute depuis un moment, mais j'ai l'impression que si on continue un peu dans ce que vous êtes en train de dire, le fait même d'en parler à la radio pourrait être punissable d'ici peu, mais est-ce que ça voudrait dire que même si on continue en poussant un peu plus loin, le fait de le penser deviendrait punissable ? C'est-à-dire, vous parlez de répression, vous parlez d'interdit de réflexion, vous en parlez, mais est-ce que vous, par exemple là, le fait d'en parler pourrait être punissable ? Parce que moi, je me souviens, il y a des années, quand il y avait le statut d'objecteur de conscience, par exemple, il était interdit d'en parler, puisque c'était punissable d'en parler. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le fait maintenant d'en parler deviendrait une forme de terrorisme?
Alors j'ai envie de vous répondre, je ne sais pas si nous pouvons répondre à la question, justement.
Oui, non, mais je comprends très bien. Je voudrais savoir, ces lois de répression, jusqu'à quel niveau elles vont? C'est-à-dire, on voit bien qu'on a théoriquement encore le droit de manifester, mais on nous interdit, on nous entoure d'interdictions de façon à passer à la répression, donc peut-être qu'un jour le droit de manifester sera toujours présent, mais sera vide. Mais
est-ce que
le droit de parole
ne pourrait
pas arriver dans les mêmes conditions, quoi, avoir le même type de problème.
Alors peut-être que cette question fait peut-être lien avec une question qui a été posée par un autre auditeur tout à l'heure qu'on m'a portée, qui est aussi, finalement, est-ce que ces dispositions antiterroristes ne sont pas en partie aussi illégales ? Est-ce que parfois ces notions... Parce que finalement, ce qui semble de plus en plus effrayant, c'est que...
Par définition, la loi n'est pas illégale.
Voilà, voilà. Voilà. Ou anticonstitutionnel, ou alors où se situe finalement parce que finalement quand on parlait tout à l'heure de quand on parle de tous les militants qui ont été récemment mis sous le chef d'inculpation de terrorisme ou d'association de malfaiteurs, le pire c'est que tout ça paraît pleinement légal. Donc juridiquement, finalement, on a peut-être peu de levier par rapport à ça.
Je trouve intéressant, effectivement, dans l'intervention de l'auditeur que nous avons entendu, c'est qu'effectivement, il rappelle la question des intentions. Oui. Donc effectivement, là, les frontières sont quand même très complexes. Là, les frontières, peut-être, entre la légalité et l'illégalité, se brouillent, justement.
Il y a plusieurs questions qui sont évoquées. Alors, d'abord, l'auditeur s'inquiétait du fait que l'on puisse plus aujourd'hui parler, réfléchir, échanger sur la question du terrorisme. Heureusement, ça n'est pas encore le cas. En tout cas, nous, au syndicat de la magistrature, il est clair qu'on s'accorde le droit de penser la justice, y compris sur ce volet-là, et qu'on ne cessera pas de le faire. Bon, c'est un débat de société de fond qui nous concerne tous, d'autant plus qu'il semble atteindre aujourd'hui, notamment avec cette affaire de Tarnac, des militants du mouvement social au sens large. Alors, il y a par ailleurs une autre problématique que vous évoquez, qui est celle, et sur laquelle nous sommes très très inquiets, qui concerne cette tendance judiciaire à la surqualification des faits. Alors évidemment que le syndicat de la magistrature ne sait pas si les mises en cause dans l'affaire de Tarnac ont ou non projeté de dégrader un caténaire de la SNCF, et même on ne sait pas davantage s'ils ont voulu le faire de manière concertée ou encore en bande organisée. Ça, bon, la justice le dira, mais une dégradation de caténaire, fût-elle en réunion, c'est une dégradation de caténaire en réunion. Il existe des qualifications pénales pour les sanctionner.
C'est pas forcément du terrorisme.
Voilà. Pour les sanctionner, et pas des moindres, puisque la dégradation, justement, par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, est punie de 20 ans. Donc, la qualification se suffit à elle-même. C'est déjà considérable. Donc, c'est pas la peine d'avoir recours à la qualification de terrorisme, pour montrer que l'affaire est grave. Voilà. Donc, cette problématique de la surqualification, et le syndicat a communiqué cette semaine sur ce point-là, nous paraît vraiment très, très, très inquiétante. J'ajoute qu'on n'est pas les seuls à le dire. Il y a quelques semaines, un haut responsable des services antiterroristes l'a souligné, ce problème-là. Il n'y a rien de révolutionnaire à demander que la juste qualification des faits soit donnée. Voilà. Alors, même le juge Thiel, dans une interview récente qui a été donnée...
Qui est l'un des juges antiterroristes.
Bien sûr, juge antiterroriste de renom. Dans une interview récente donnée au journal Libération, dit ceci, je vais le citer. La propension de l'État, hein, c'est pas le syndicat d'administrature qui parle, hein, c'est le juge Thiel. La propension de l'État, des politiques et du parquet à étendre de façon insidieuse la notion de terrorisme. C'est ce qu'il critique. Il dit qu'à interpréter la définition du terrorisme de façon trop extensive, on risque d'incriminer des actes de désespoir social. Comme ces ouvriers qui jettent de l'acide sulfurique dans la rivière près de leur usine en voie de délocalisation. Voilà parfaitement expliqué par un acteur même de la justice antiterroriste ce risque de glissement et cette perte de sens à vouloir tout embrasser dans la notion d'antiterrorisme qui, comme je le rappelais en tout début d'émission, concerne, devrait concerner des choses très très particulières.
Alors, je pense que ce qui est intéressant, ça me fait remondir à l'associer. Je pense que aussi la question de l'importance des mots, justement, et de pas oublier que le combat, ça se fait aussi par les mots. Je repense à l'intervention qu'avait fait effectivement Armand Gatti à la première réunion publique organisée par le soutien du 11 novembre de Tarnac, où la tension était assez palpable. Et face à une volonté commune, je dirais, d'aller saboter partout où c'est possible pour montrer que nous étions tous des saboteurs potentiels, face à une espèce de violence, Armand Gatti est surgi comme ça avec tout son corps pour rappeler que le combat, ça se faisait aussi par les mots et qu'il fallait pas lâcher sur qu'est-ce qui qualifie quoi et quelles sont les conséquences par rapport à ça. Et puis deuxièmement, l'idée, ça serait de revenir justement sur l'affaire Tarnac, mais par rapport à non pas leur arrestation, la dimension médiatique, etc., mais plus sur effectivement leur ouvrage et à ce moment-là de voir en quoi les implications politiques vraiment de cet ouvrage.
Oui, rebonsoir à tous. Donc toujours sur Radio Libertaire 89.4, le contre-terrorisme comme mode de gouvernement avec les appels de vos auditeurs que nous prenons donc au 01 43 71 89 40. Par ailleurs, je crois qu'un auditeur que nous avons déjà entendu tout à l'heure voulait nous rejoindre pour nous reposer sa question. Allô ?
On l'avait pas eu en direct, alors.
Allô ?
Ah, il y a eu un problème.
Ah.
Allô ?
Allô, oui.
Ah, ça y est.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, on n'a pas pu vous entendre tout à l'heure, alors allez-y, rappelez-nous votre question.
Je ne suis pas passé à l'antenne tout à l'heure.
Voilà.
Oui,
voilà.
Je l'ai dit.
Vous êtes à l'antenne.
Alors, moi, je voulais simplement dire, d'abord, votre débat est un peu trop technique. Deuxièmement, je voulais savoir, puisqu'il y a un représentant du syndicat de la magistrature, trouble à l'ordre public, s'il y a un groupe qui se tout d'un coup descend dans la rue et appelle à se révolter contre telle chose ou appelle à occuper un lieu, est-ce que c'est considéré comme actes de terrorisme. Deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la liberté d'expression est menacée? D'ailleurs, je suis peut-être un peu paranoïaque, mais c'est ce que je pense un peu d'ailleurs.
C'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'a pas d'ennemis, hein, de toute façon.
Comment?
C'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'a pas d'ennemis.
Non, mais peut-être que je suis un peu paranoïaque, mais moi je pense que la liberté.
C'est une plaisanterie, je suis d'accord avec vous.
Elle est menacée.
Mm-hmm. Alors.
Voilà la question que je posais.
D'accord, merci. Donc,
alors, David, peut-être?
Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Alors, pour l'instant, le fait de manifester et de soutenir tel ou tel mouvement n'est pas encore considéré ou retenu par les services policiers et judiciaires de lutte antiterrorisme comme du terrorisme. Il ne faut pas non plus s'alarmer à l'excès. Sur la liberté d'expression, je retiens juste le fait que malgré tout est retenu comme indice dans l'affaire de Tarnac la simple possession d'un livre subversif. Bon, c'est quand même ennuyeux qu'on en soit là. Chacun peut avoir la bibliothèque qu'il veut. J'espère que c'est pas le seul élément dans les mains des enquêteurs et que ça n'est pas le seul élément qui a justifié une incarcération déjà de 2 mois pour une jeune femme et davantage pour un jeune homme. Donc, pas d'alarmisme, mais quand même... les associations de défense des droits de l'homme et qui militent pour les libertés publiques doivent être vigilantes, ainsi que les citoyens, bien sûr, pour dénoncer les dérives. Je parlais tout à l'heure des questions de surqualification. C'est pas si technique que ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est simplement que, pour un fait commis, lui soit appliqué le texte pénal qui correspond. Et qu'on n'a pas et qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter, sachant que l'arsenal juridique pénal français est déjà suffisamment étoffé.
Alain ?
Juste un mot. C'est pas seulement la question de la liberté d'expression. Une chose est de refuser à bon escient de crier au fascisme à propos de tout et de n'importe quoi. Mmh. Donc il faut savoir garder mesure sur ces questions-là. Mais une autre chose est quand même d'être non pas vigilant, mais attentif au fait qu'on est dans un état de dégradation constante des libertés publiques dans ce pays. Et ça, c'est pas... Bon, c'est le jeu de l'État, je veux dire, que ça vienne en rafale perpétuelle de la part de Sarkozy et de ses sbires, moi ça m'étonne pas, c'est leur boulot, c'est leur politique, ils l'ont annoncé, etc. Ce qui m'inquiète, c'est le contre-champ, c'est-à-dire le peu de réaction du côté du public lui-même par rapport à ces choses-là. Je veux dire, la façon dont la biométrie, tous les enjeux policiers de la biométrie, ça passe comme une lettre à la poste. Les gens vont chercher leur passeport biométrique avec fierté aujourd'hui. Et ça, c'est une cochonnerie. C'est une super cochonnerie, ces choses-là. La façon dont les normes de conduite policière par rapport au commun des mortels aujourd'hui, dans les contrôles d'identité, pas seulement les rafles pour les clandestins, mais le contrôle d'identité, ce qu'on appelle tout le domaine des bavures. Et aujourd'hui, ça prolifère, je veux dire, il y aurait matière à faire aujourd'hui, s'il y avait de la politique dans ce pays, il y aurait matière à organiser des états généraux, non pas sur les bavures, mais sur les abus policiers. Et il y aurait de quoi faire sur les contrôles aux faciès, sur les brutalités, sur les gardes à vue hallucinantes, etc., etc. Bon, comme il n'y a pas de politique, il n'y a pas ça. Donc, du coup, ça prospère. Mais ça prospère en tant que, disons, dégradation sans fin des libertés publiques dans un État où le public n'est pas réactif à ça. Il est réactif à d'autres problèmes. Il est réactif à la crise économique. Il est réactif à, disons, des menaces indistinctes sur la scène, la politique internationale et ça. Mais étrangement, ça, qui concerne la vie de tous les jours des gens, d'une façon inégale, certes, parce que c'est pas la même chose pour les gamins des cités et pour les gens du centre-ville, certes, mais quand même, d'une façon ou d'une autre, ça concerne tout le monde. Et c'est étrange, d'ailleurs. On en parle quand, précisément, il y a des erreurs de casting, c'est-à-dire que les flics se conduisent mal avec quelqu'un du centre-ville. Bon. Mais il y a quand même des choses étonnantes. Vous prenez l'histoire de... Tout à l'heure, on a passé une chanson de La Rumeur, ce groupe de rap. L'acharnement qui vient de la police, parce que c'est une plainte. Bon, c'est relayé par le ministère de l'Intérieur. C'est une plainte qui émane du ministère de la police, de l'Intérieur, qui relaye un syndicat de flics dans cette affaire-là. Pourquoi? Pour une parole d'une chanson sur le massacre du 17 octobre 61 qui est irréprochable historiquement, qui dit nos frères qui ont été massacrés par centaines par la police. Oui, oui, dans cet événement, oui, absolument. Et il n'y a aucun doute, le contexte de la chanson est ça. C'est absolument établi par les historiens, etc. Donc peut-être ça fait mal à entendre pour tel syndicat de flics intégriste aujourd'hui, intégriste dans le sens de l'honneur de la police, mais c'est comme ça. Voilà. Et il y a l'acharnement, ça fait, je crois, on en est au troisième degré.
À chaque fois, ils ont été relaxés, relâchés.
Oui,
à chaque
fois.
On les lâche pas, quoi.
Voilà, et on ne les lâche pas là-dessus.
Oui, moi, je voudrais revenir sur un phénomène assez général, enfin plus général, avant de parler un peu de liberté d'expression, qui est celui du contexte de déqualification, finalement, des questions de violence, et notamment de violence politique. Je crois que l'un des effets, sans doute, post 11 septembre, j'ai dirigé un bouquin sur l'ensemble des évolutions antiterroristes en Europe, aux États-Unis et en Russie. Et quand on met en série les évolutions dans ces différents pays, on s'aperçoit que, fondamentalement, si l'11 septembre a changé quelque chose, c'est que ça a vraiment accéléré la déqualification possible de toute forme de résistance violente. C'est-à-dire que ça nous concerne très peu notre pays, fondamentalement, mais, par exemple, des groupes qui sont des groupes armés de résistance à des États, en Turquie, dans des pays latino-américains, etc., etc., qui jusque-là pouvaient bénéficier, dans un certain nombre de pays d'ailleurs, de statuts de réfugiés politiques. Très souvent, parce qu'il faut savoir que le terroriste pour l'un est sans doute et souvent réfugié politique pour l'autre. Aujourd'hui, voit précisément, avec l'unification des listes des terroristes, c'est-à-dire que grosso modo, la lutte mondiale contre le terrorisme, c'est quoi? C'est grosso modo élaborer des listes de groupes contre lesquels on va lutter. Or, pour être sûr que les autres vont prendre en compte vos propres groupes, vous êtes obligé d'accepter les leurs. Et donc on a eu une espèce d'inflation, si vous voulez, de groupes caractérisés comme terroristes. Ça, je crois que c'est très intéressant. Par exemple, le 11 septembre 2001, vous avez une liste des terroristes qui sort, des individus et des organisations terroristes, qui sort fin octobre 2001. On est sous la présidence espagnole à l'époque. La liste des organisations et des individus caractérisés comme terroristes en octobre 2001 commence par la liste de 70 militants de l'ETA. C'est très intéressant, par exemple. Bon. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on a des atteintes très dures à la liberté d'expression. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vu en Angleterre, aujourd'hui, porter un t-shirt du PKK est considéré comme un délit.
PKK, donc, qui est le parti du Kurdistan.
Ouais. Porter ce genre de choses, assister à un meeting dans lequel on va faire l'apologie de ce parti, est considéré comme un délit. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, ça c'est en matière antiterroriste. Il y a des atteintes à la liberté d'expression, dont on ne parle pas en matière antiterroriste, mais je crois que la concentration entre les mains de groupes industriels de l'essentiel des médias français, par exemple, est une atteinte à la liberté d'expression qui va bien au-delà, je dirais, des formes de répression judiciaire que l'on pourra voir dans un certain nombre de choses. Ça c'est un élément, je pense, qui est important. Troisième point, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Alain, parce que je crois que c'est absolument central. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ces dispositifs antiterroristes, je dirais, ont fonctionné, et je crois, dans la parfaite indifférence, je dirais, de la population. C'est-à-dire que ce dont on est en train d'écrire, ce dont on s'émeut pour Tarnac, ce n'est pas une dérive du système antiterroriste. C'est la manière ordinaire de fonctionner depuis maintenant, je vous dis, des dizaines d'années, qui touche et qui cible des groupes particuliers. Or, précisément, aussi longtemps que ces groupes sont des groupes soit définis comme dangereux, soit des groupes marginalisés, soit des groupes qui finalement ne sont pas comme nous, et on construit, on revient sur la construction de catégorie, la construction de la catégorie de l'autre, aussi longtemps que ça ne les touche pas, c'est important. Et je crois qu'il est singulier de constater où a-t-on observé les mobilisations. RESF, c'est quoi? C'est nos gosses quand même. C'est les gosses. C'est pas important. Edwige, c'est pratiquement, moi qui travaille sur ces questions, le fichier le plus anodin des fichiers de police. Le STIC, par exemple, dans lequel il y a 5 millions de gens auteurs plus 28 millions de gens au total, est bien plus important en matière d'information et en matière d'usage quotidien de police que le fichier Edwige.
Est-ce que tu pourrais expliquer
excuse-moi.
Le STIC.
Parce qu'on s'adresse aux auditeurs.
Pardon, oui, c'est vrai qu'on est trop technique, pardon, excusez-moi. Ce que je veux dire, le STIC, c'est le service de traitement des infractions constatées, que vous soyez soupçonné par la police de quelque chose, que vous soyez témoin d'un fait, ou que vous soyez victime, vous rentrez dans un fichier policier. La durée de conservation des données est de 40 ans, c'est-à-dire que vous n'en sortez jamais.
grosso modo. Mmh. Ça, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que quand les policiers vous contrôlent et font un contrôle d'identité, c'est précisément, ils vous passent au stick. Le stick ayant, par exemple, comme effet direct, d'interdire, si vous êtes fichier au stick, c'est-à-dire soupçonné par la police de quelque chose. C'est-à-dire, si vous êtes innocenté par la justice, vous ne disparaissez pas du fichier pour autant. Ça a eu, après le 11 septembre, l'effet, par exemple, de fermer un gisement d'emploi très important pour des jeunes de cité, par exemple, qui était la sécurité privée. Aujourd'hui, vous voulez postuler pour un emploi de vigile, non, on va faire un passage stick. Si vous êtes fiché au stick, vous n'aurez pas l'emploi. Bon. Ça a des effets, donc, vous voyez, dramatiques. Mais, je dirais, aussi longtemps, effectivement, et on commence à voir des mobilisations, finalement, quand ben, on a l'impression que, finalement, ça ne touche plus des groupes désignés comme dangereux, mais finalement que ça pourrait toucher tout le monde. Et je crois que ça, c'est sans doute une dimension qu'il faudrait qu'on débatte ce soir, parce que je crois que fondamentalement, je dirais, la résistance qui peut se monter face à ces dispositifs, à ces évolutions sécuritaires que l'on est en train de parler, passe réellement, comme le disait Alain tout à l'heure, par de la réintroduction du politique là-dedans.
Mmh. Alors je pense en même temps, pour pas être complètement pessimiste peut-être, mais qu'on peut se réjouir qu'à un moment donné, par un accident, en somme, on peut se sentir justement concerné et que là, c'est parfois un événement infime qui va pouvoir bouleverser effectivement des actions et un comportement pour au quotidien.
C'est,
quoi.
C'est la goutte d'eau qui va faire.
Pour le dire très bien, il est très très possible qu'une bourde bureaucratique puisse jeter de certains doutes sur le système antiterroriste, ce que plein de gens qui travaillent sur cette question-là essayaient de faire depuis des années. C'est tout à fait probable et c'est très très bien. Et c'est très. Attends, je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. C'est absolument nécessaire. Positif qu'il existe ces mobilisations sur RESF, sur Edwige, etc. Je ne dis absolument pas de dénigrer ces mobilisations qui sont bien sûr nécessaires.
Alors après, il y a aussi la question de l'information et comment circule l'information. C'est vrai que on a, on pourrait dire qu'on a presque une voix générale ce qu'on qualifie de médias un petit peu justement dangereux parce qu'ils ne seraient pas précis, pas officiels, sur lesquels on peut s'informer. Bon, je ne sais pas, vous avez fait allusion à ça. Il y a aussi ce qui se passe au niveau psychiatrique, par exemple. Bon, bah, évidemment, les premiers touchés, c'est les personnes travaillant dans les institutions. C'est eux qui vont essayer de faire entendre la voix. Bien sûr, ils se plaignent, ils sont très seuls. Bon, mais parfois, ça demande un petit peu de temps pour que les réseaux puissent effectivement se constituer. Mais je pense qu'effectivement, on a des signes qui font que parfois, ça puisse bouger, justement.
Oui, souvent, ça fonctionne. La mobilisation, pas de zéro de conduite pour les moins de 3 ans, a recueilli des centaines de milliers de signatures. Ça a été un mouvement très, très fort. Je veux dire, non, le problème, c'est effectivement, c'est qui a demandé l'amnistie. Alors, il y a un très bel exemple. Vous avez le CPE, vous avez les affrontements avec la police. Tout un tas de formations politiques de gauche se sont présentées en disant une amnistie pour les gens qui avaient été arrêtés dans les manifestations du CPE. A-t-on vu un mouvement similaire pour les émeutes de 2005?
Alors, non. Justement, pour enchaîner sur ce que tu viens de dire, Laurent, concernant l'affaire Tarnac, si on revient sur cette affaire-là, bon, voilà des personnes quand même qu'on ne cesse de présenter, d'ailleurs depuis le moment où ils ont été inculpés, comme, et les médias n'arrêtent pas de revenir là-dessus, comme des gens de bonne famille, comme des gens qui ont fait des études, etc. Et par ailleurs, parfois, même y compris quand on se mobilise pour eux, on a aussi tendance parfois aussi, cet argument revient souvent. Ce que eux, d'ailleurs, ne demande pas forcément. Il y a un très beau texte qui a été publié dans une des personnes qui a été relaxée récemment, qui a été publié par Mediapart, et qui est un texte
qui a été libéré.
Une lettre ouverte.
Une lettre ouverte dans laquelle, justement, il se montre très conscient. Et à un moment donné, il dit quelle chance j'ai eu, moi qui ai des garanties de représentation, moi qui ai fait des études par rapport à tous
moi
ces
qui
gens.
Suis blanc.
Moi qui suis blanc par rapport à toutes ces personnes que j'ai croisées en prison et toute cette jeunesse qui est détenue aujourd'hui, qui vient des quartiers populaires, etc.
Donc les premiers concernés sont très concernés aussi par le contexte.
Et justement, dans ce texte de l'insurrection qui vient, par ailleurs, qui a été vraiment très médiatisé, à tel point, je crois que c'est maintenant
un best-seller.
Un succès de librairie. Donc c'est vraiment des logiques comme ça qui sont assez marrantes.
Je ne serais pas aussi radical pour dire que tout ça est tout simplement une opération commerciale. Pour lancer le livre.
Non, on n'est pas assez cynique.
Non,
on n'est pas assez
pas.
Paranoïaque.
On n'est ni assez paranoïaque ni assez cynique pour le penser. Bon, quand même. Mais il y a quand même quelque chose dans ce livre. Justement, tu parlais des émeutes des banlieues. Ce livre, quand même, dit tout le bien qu'il pense aussi des émeutes des banlieues. C'est un livre très politique. Alors ça, c'est une question que j'aimerais te poser, à Alain, en fait. Parce que finalement, le contenu de ce livre a été finalement complètement recouvert. L'aspect politique... de cette pensée commune de la soi-disant cellule invisible. D'ailleurs, on remarque que souvent, il y a vraiment une construction policière qui a consisté à vouloir trouver un auteur du livre. On n'a pas arrêté de dire Julien Coupa auteur du livre, alors que c'est quand même une pensée qui s'est voulue commune. Donc on est encore dans cette logique de l'imputation policière. Alors ce texte finalement, le philosophe, qu'est-ce qu'il peut en dire aujourd'hui?
Je crois que tu allais demander qui l'a écrit.
Non, la première chose à dire, c'est que c'est une construction policière qui inclut le texte, le livre, dans l'affaire. Déjà, quand même la première chose. Donc effectivement, là, il y a toute une philosophie policière qui... Et qui effectivement, du coup, réintroduit cette dimension de la liberté d'expression, de la liberté de parole et de la liberté de penser. Puisqu'à partir du moment où il s'agit d'établir un lien indissoluble entre un délit supposé, ou davantage même, une incrimination extrêmement grave, et un texte qui constituerait le fondement des actions envisagées, alors, effectivement, là, il y a quelque chose comme l'élément d'une police de la pensée qui s'établit, bien évidemment. Bon. Et ça a été déjà quelque chose qui a choqué, je crois, beaucoup, et qui a contribué à ce qu'autour de ce qui aurait pu rester une toute petite affaire, finalement, ou à la limite même une sorte de fait divers, se constitue une polarisation vraiment intéressante, une sorte de déclic politique. Effectivement, il y a cet aspect, on s'identifie à eux parce qu'ils nous ressemblent, ils sont du centre-ville comme nous, ils sont bien élevés comme nous, ils ont fait de bonnes études comme nous, etc. Donc bon, mais ça, il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt en même temps. Il ne faut pas être dupe, disons, on s'est identifié à eux, disons, plutôt qu'à ce facteur un peu allumé qui a bombé des radars et qui, du coup, s'est retrouvé lui aussi avec une inculpation pour terrorisme et un bras en moins de surcroît. Bon, et lui, il n'avait pas fait des études de philo, et lui, il n'allait pas chez Drucker, donc, et tout ça. Bon, donc lui, on l'a un peu laissé tomber. Il n'y a pas eu cette levée des boucliers de tous les philosophes notoires dans notre pays en sa faveur. Bon, mais ça, il ne faut pas réduire tout ça. L'aspect important, me semble-t-il, c'est qu'il y a eu une sorte d'adoption, de l'affaire de Tarnac par un public qui est un public politisé ou qui est en mal de politique et qui, d'une façon ou d'une autre, s'identifiait. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans ce qui est en jeu, là, c'est la possibilité qu'existe encore une politique radicale dans ce pays. Quelque chose comme du radicalisme politique, c'est-à-dire une politique qui ne se pense pas et qui ne s'envisage pas du tout en termes d'action aux conditions générales de cette espèce de consensus sans bord extérieur, quoi. Et c'est là que le livre est intéressant. C'est là que ce bouquin est intéressant. Parce que le livre essaye de penser ça. Donc c'est un livre de philosophie. D'abord, il faut dire que c'est un livre de philosophie. Je veux dire, quand on est un peu dans la philo, les références, les citations qui se disent pas, etc., sont là du début à la fin. C'est un livre de gens qui sont imbibés. Et de Badiou, et de Rancière, et d'Agamben, et de Jean-Luc Nancy, et de ceci, et de cela. Bon, c'est un livre un peu cagneux, même, je dirais, de ce point de vue-là. Mais en même temps, ce livre de philosophie de bons élèves, disons, en même temps est un livre de politique. Parce que moi je trouve que son mérite premier, c'est que c'est un livre qui repose la question de l'action. S'il y a une chose qui a disparu par les temps qui courent, c'est la philosophie de l'action. C'est pour ça qu'on dit que Sartre est un vieux cadavre mort, parce que lui il est penseur de l'action, justement. Plus de Sartre, plus rien du tout. Mais eux font revenir la question de l'action, parce que c'est un livre qui pourrait s'appeler « Que faire ?», tout simplement. Mm-hmm. Mais sérieusement, qui prend cette question au sérieux. Et c'est là, évidemment, que la question de l'enchaînement sur Tarnac est litigieuse, est compliquée. Mm-hmm. Bon, alors il y a une position de défense, on dit « Prouvez-le, hein, Madame Alliot-Marie, prouvez-nous vos allégations, là. » Bon, d'accord, ça c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect qui est effectivement ce rapport entre un texte philosophique, un texte de philosophie politique, un texte de critique radicale de l'état des choses, mais qui est aussi un texte dans lequel il y a des propositions. Il y a des propositions en termes de pensée de l'action, et il y a même parfois des prescriptions. Il y a un certain nombre de prescriptions dans le texte. Bon. Et alors, ce que j'ai pas du tout aimé, moi, c'est la façon dont l'adoption s'est faite sur la base du consensus démocratique, en disant, ben non, ils sont gentils, ils sont irréprochables, etc. Mais donc, quand même, eux, ils voulaient être imprésentables. Dans leur démarche même, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imprésentable. Pas se marginaliser, mais se mettre plutôt du côté du dangereux que du côté de l'innocence, quand même. Bon, Autre chose, c'est de dire, bon, incrimination, d'accord, montrez-nous ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait. Bon, alors là, votre construction policière, elle est nulle, elle est bidon. Ok, ça c'est une chose. Mais par ailleurs, il ne faut pas les décrier, je veux dire, ni les gens de Tarnac, ni ceux qui ont écrit ce livre, en disant, ben non, attendez, ce livre, c'est quoi ? C'est de la critique de la culture, c'est banal, c'est... Mais ça, parce que ça,
pas du tout.
C'est ne pas rendre justice à ce livre. Ce livre a un ferment critique qui va au-delà des exercices habituels. C'est pas du Adorno remâché, écrit comme ça dans en chambre claire. Ça n'est pas et le projet de la commune. Il faut prendre au sérieux Tarnac. Il y a une commune. Faire une commune aujourd'hui, c'est un projet politique. Donc, commune, ça a une racine commune avec communisme. Bon, c'est réactualiser le communisme. Et donc, il faut se tenir à cette hauteur-là et pas être seulement dans la protestation démocratique en disant que ce sont des gentils enfants de bonne famille et qui... Il faut le faire aussi, mais pas sur ce mode-là. Bon, pardon.
Effectivement, ce que tu pointes, c'est la question de la congruence entre la théorie et la pratique, d'une certaine façon. Et que peut-être c'est ça qui pose véritablement problème. On ne peut pas dire qu'ils ont été inquiétés du fait de leur écrit ou du contenu du livre, mais peut-être qu'effectivement, cette zone d'une congruence entre leur façon de vivre, leur mode de vie, effectivement, leur texte, ce qu'ils écrivent, est assez inactuelle, effectivement. Et je pense que ça, c'est un très bon exemple pour tout le monde, aujourd'hui, qui ose expliquer le monde et qui se pose pas forcément souvent la question de comment, au quotidien, il agit. Effectivement, oui.
Oui, on parlait tout à l'heure de la question des libertés publiques. Et moi, je dois dire qu'au syndicat de la magistrature, on a été assez déconcertés de l'absence de mobilisation et de réaction sur un texte abominable, hein, qui est celui de la rétention de sûreté, qui est entré en vigueur cette année et qui... par une abjection philosophique et juridique, permet d'enfermer désormais en France des gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'une fois la peine purgée à la suite d'un passage à l'acte très grave, donc une fois que la dette est payée, on va continuer à les enfermer sur un diagnostic, un pronostic de dangerosité établi par des psychiatres, validé ensuite par des juges. Et je pense que c'était une question, justement, de fond, un débat de société majeur. Robert Badinter s'est époumonné au Sénat pour essayer, et dans la presse également, pour essayer de trouver un relais politique, militant sur ces questions-là. Et je dois dire que, finalement, à part le petit cénacle des associations qui militent de manière assez habituelle sur les questions des droits de l'homme, on a rencontré assez peu d'écho. Alors moi, je trouve que avant de discuter de l'action radicale et d'y inclure un fantasme révolutionnaire, il y a des textes significatifs sur lesquels on peut porter des luttes syndicales, politiques, associatives, et on rate le coche. Et sur la rétention de sûreté, on a raté le coche.
Oui, moi je veux dire, pour revenir sur ce bouquin, effectivement, bon, je pense qu'il faut quand même dire pour les auditeurs qui l'auraient
sur tenu, l'insurrection qui vient.
Sur l'insurrection qui vient, que c'est quand même pas un manuel de guérilla. C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a une grande radicalité, il y a des propositions, mais je dirais, si c'est pas non plus le manuel distribué pour c'est pas consacré. Faites votre cuisine vous-même.
C'est pas le manuel de guérilla urbaine.
Faites votre cuisine vous-même qui était
précisément. Faites vos bombes vous-même, comme ce qu'on trouve sur Internet.
Faites votre cuisine vous-même, vous êtes jeune. Vous ne connaissez pas cette culture, c'est des anarchistes allemands des années 70 qui précisément diffusaient ça. Bon, bref, c'est notre débat. Ce que je veux dire, c'est que je pense que, de ce point de vue, sur l'affaire, je veux dire, l'incrimination ne porte pas sur le livre, je crois fondamentalement. C'est qu'à un moment donné, je crois qu'aussi, il y a une affaire policière qui est une vraie bavure. Je pense très certainement, c'est-à-dire qu'il y a une bavure. Et à un moment donné, je dirais, vous avez une telle mobilisation, vous avez un tel débat, que sur tout un tas d'aspects, vous ne pouvez plus lâcher les gens. Tout simplement en disant non, on s'est complètement planté. C'est un coup politique qui est absolument impossible. Et je crois qu'il faut revenir, si vous voulez, un petit peu sur le contexte de l'affaire. Je crois qu'à la fois, on est dans un contexte politique qui est celui d'une radicalisation, je crois que l'un de vous l'a dit en ouverture de l'émission, qui est à la fois un contexte de radicalisation, c'est-à-dire qu'on sent effectivement ça et là que les lycéens, que les étudiants, que dans un certain nombre d'usines, etc., il y a de l'agitation parce qu'il y a une crise économique forte, dans un contexte où les forces politiques institutionnelles de gauche atteignent des niveaux de faiblesse historique. C'est-à-dire que le Parti socialiste, le Parti communiste aujourd'hui ne constituent plus des forces capables de canaliser un mécontentement social. Un contexte européen avec ce qui se passe en Grèce, etc., qui fait qu'il y a une inquiétude politique du gouvernement pour des formes d'agitation qui ne seraient pas canalisées. Je crois que d'ailleurs c'est très significatif d'avoir vu la reculade du gouvernement sur la question des lycées une semaine avant les vacances de Noël. Où a-t-on vu qu'un gouvernement recule sur une question scolaire une semaine avant des vacances? C'est absolument inédit. On dit en principe, on laisse passer les vacances, on verra à la rentrée. Bon. Là, ils ont reculé là-dessus parce que précisément, les lycéens, ça peut...
Parce qu'il y avait la Grèce aussi, en toile de fond.
Tout à fait, il y avait la Grèce. Je veux dire, c'est un contexte général. Je pense qu'il y a ça d'abord. Il y a donc une inquiétude, je dirais, pour...
Voir peut-être.
Il y a une inquiétude du gouvernement pour les questions d'extrême-gauche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est peut-être moins connu, c'est... vous savez qu'il y a une fusion actuellement des services de renseignement français, une fusion de la des renseignements généraux et de la DST, qui ont constitué un service de renseignement unique qui s'appelle la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, la DCRI, la fusion est effective au 1er juillet dernier. D'accord, donc c'est quelque chose de très récent, sachant que renseignements généraux et DST sont deux services qui non seulement ne s'entendent pas, mais se haïssent cordialement. Donc c'est quelque chose d'important. Et cette fusion se passe très mal. Se passe très mal dans la mesure où c'est la DST qui a pris le leadership au niveau des institutions centrales, mais le gros des troupes, et notamment en province, ce sont les renseignements généraux. Et comme par hasard, dans les deux ans qui ont précédé la fusion, les renseignements généraux ont fait remonter un discours sur la dangerosité de certains groupes d'extrême-gauche, qui, mais c'est sans doute un hasard, correspond à l'une de leurs compétences traditionnelles. Et précisément, je dirais, un jeu de fuite savamment orchestré dans la presse fait que si vous suivez, vous avez un certain nombre de journalistes qui se sont très largement intéressés à la mouvance anarcho-autonome dans précisément les deux ans qui ont précédé la fusion effective des services de renseignement. Donc je pense, vous voyez, on est à la fois dans un contexte de lutte interne entre des services de renseignement, où il peut y avoir des intérêts qui sont liés à cette question-là, un intérêt politique important pour cette question, qui, je pense, à un moment donné, crée un contexte favorable à une opération policière, qui est du point de vue, je dirais, du professionnel, est une bavure policière. C'est-à-dire, on fait une incrimination sur des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et par la suite, je veux dire, il faut effectivement, c'est très difficile de se dédier, je veux dire, de se désavouer. Et je crois que l'affaire de Tarnac, elle est aussi liée à ce contexte plus général.
Oui, elle a justement
un petit mot là-dessus.
Question,
ouais. Je veux dire, c'est avant tout une bavure politique, quand même, plutôt. La police ayant été mise en situation de... Et je pense qu'un aspect à ne pas négliger, c'est le rôle, le jeu personnel de Mme Alliot-Marie là-dedans, qui ne fait pas partie du sérail sarkozyste, et qui a besoin de montrer du résultat. Et là, elle a voulu montrer du résultat, elle s'est plantée complètement dans une espèce de hâte excessive qui fait que l'enquête n'a pas été conduite à son terme. Il fallait du résultat tout de suite, très vite, parce qu'elle est sur un siège éjectable.
Oui, et je pense que justement, on a essayé de la mettre sur la scène en disant, oui, comme c'est un coup qui, a priori, est presque à l'avance, va signer un échec certain, on la met elle parce que quand même c'est elle qui va quand même oser porter la voix de ce discours, etc. Donc est-ce que c'est juste cette question-là, l'intérêt du gouvernement de rendre la chose si médiatique était une assurance de résultat? Je sais pas si cette affaire et la façon dont elle a été grandement médiatisée avait pour but finalement de montrer l'efficacité d'un pouvoir mis en place. Je ne sais pas.
Je rajouterai juste un point et je te laisse la parole immédiatement. Je crois qu'il ne faut pas non plus oublier les formes, je dirais, d'inconscience, d'inertie bureaucratique. Je crois que fondamentalement, la médiatisation des opérations antiterroristes, c'est pas Tarnac. Vous souvenez que Nicolas Sarkozy a été invité à des journaux télévisés et montrant en direct des arrestations d'islamistes. Je dirais, c'est-à-dire que l'accréditation du pouvoir de l'État d'arrêter, etc. Peu importe si ces gens ont été incriminés ensuite, ont été relaxés, ont été relâchés.
peu importe, je dirais. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Et je crois que l'un des effets peut-être des dynamiques qu'on a décrites depuis le début de l'émission, c'est aussi à un moment donné qu'il existe, y compris dans des services de policiers, un ça va de soi. C'est-à-dire aussi un sentiment, dans une certaine mesure, d'impunité. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut, puisque de toute façon, on le fait depuis un certain nombre d'années. Et je pense que vous pouvez, enfin, il y a des effets comme ça de dynamique d'escalade qui font que on peut aussi mener une opération comme ça en pensant que bah, c'est exactement la même chose que quand on le fait contre des islamos, quand on le fait, etc. Et que finalement, ça n'a pas tellement de conséquences. Sauf que, effectivement, dans ce cas précis, oui, il y a une médiation, oui, il y a une réaction qui était inattendue, je dirais inattendue pour les policiers, inattendue pour le gouvernement et inattendue pour tout un tas de militants aussi.
Oui, puis il y a quand même une stratégie qui est à l'œuvre quand même, qu'on ne doit pas oublier. C'est-à-dire, effectivement, tu as raison de pointer, bon, bah, effectivement, on change la personne visée, on change finalement cette déviance du grand consensus, mais en même temps, justement, dans le changement focal du personnage type, c'est aussi changer, c'est avec la même stratégie agrandir le champ d'intervention quand même.
Juste un mot, je crois qu'il faut agrandir, mais je crois qu'il faut pas non plus, il faut pas non plus se bercer. Enfin, je veux dire, je crois qu'il faut pas non plus se tromper. Je dirais, aujourd'hui, pour les services de renseignement, la cible ultime, c'est pas Tarnac, c'est pas les anarcho-autonomes. C'est-à-dire, je crois que fondamentalement, c'est, il faut pas non plus croire, si vous voulez, qu'on a changé, grosso modo.
Je me suis mal fait comprendre, peut-être. C'est-à-dire
qu'on n'a pas, non, on n'a pas élargi, je dirais, à l'infini. C'est-à-dire que pour les services de renseignement, précisément, ils peuvent pas démultiplier l'activité au maximum. C'est-à-dire que pour eux, précisément, ce qu'on peut voir aux États-Unis, c'est-à-dire des, par exemple, des bases de données gigantesques de tous les gens qui rentrent dans les États-Unis, c'est absolument pas pertinent. Pour eux, c'est cibler un certain nombre de groupes très spécifiques. Là, bien sûr, l'extrême gauche est surveillée, mais leur cœur de cible, si on peut dire ainsi, ou comme on dirait en matière commerciale, c'est pas celui-là.
En matière commerciale, oui. Alors, qu'est-ce que ça implique effectivement de se dire que peut-être c'est pas la première cible, c'est d'ailleurs c'est pas le numéro 1 au top 50.
En même temps, juste pour rebondir là-dessus, il y a quand même quelque chose moi qui me paraît assez important de relever, c'est que dans cette affaire, moi personnellement, si on s'imagine 30 secondes un peu à la place du gouvernement et du pouvoir. Finalement, cette affaire, c'est un formidable test aussi de l'opinion publique. Tout à l'heure, quand on parlait, par exemple, de la réaction du public à toutes les dispositions sécuritaires qui se mettent en place depuis des années, là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Libération, quasiment dès que l'affaire a éclaté, qui titrait « L'ultra-gauche déraille ». Après, ils se sont rattrapés. Mais il y a peut-être quand même là-dedans, même si c'est pas la première cible, il y a quand même en ce moment une situation sociale et politique qui est très tendue. Je pense qu'il faut quand même pas l'oublier. Il y a quand même des gens qui perdent leur boulot. Il y a quand même des formes de radicalité qui pourraient se développer. Et la façon
des
d'ailleurs...
à venir, on voit quand même ce façon, qui se passe en Grèce. C'est dans un contexte particulier.
Et quand on voit la façon dont même... Enfin, même, c'est pas même d'ailleurs. Quelqu'un comme Besancenot, par exemple, ce qui est assez extraordinaire, a été lui-même complètement piégé. Parce que tout de suite, la première chose qu'il a dite, c'est « nous ». Nous ne faisons pas partie de cette engeance-là, nous ne pratiquons pas le sabotage, et Michel Omari s'est empressé de dire, voilà une extrême gauche qui, elle, participe au jeu électoral, etc., etc.
Donc ça permet quand même de montrer comment les gens se placent dans un certain contexte
et
aussi.
Et sans forcément rentrer dans le fantasme, il est important effectivement de ne pas rentrer dans le fantasme, bon, de l'idée que vraiment, ça y est, toute personne estampillée libertaire est la cible d'un complot, d'une conspiration, pas du tout. Mais en même temps, nous sommes gouvernés, il faut quand même le rappeler. Nous sommes gouvernés, il y a quand même des rapports de force et des rapports de classe, et dans ces rapports de force et ces rapports de classe, disons que l'affaire de Tarnac a peut-être été aussi une manière de tester la façon dont l'opinion se mobilise dans ce genre de cas. Je ne sais pas, c'est une hypothèse que je soumets à la discussion.
Attendez, parce que je crois qu'on a un auditeur qui attend depuis longtemps.
Qui attend depuis longtemps, oui, bonsoir.
Pardon. Bonsoir.
C'est moi.
Oui,
allô,
bonsoir.
Ah oui, oui. Bonjour, bonsoir. Alors, oui. Moi, c'est quelque chose qui quand même me pose question. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai entendu, je ne suis pas la seule à avoir entendu, vous savez, de temps en temps, il y a une information qui passe le matin. Puis hop, après, on ne l'entend plus jamais. Alors, concernant justement cette affaire de Tarnac, c'était dans un journal allemand du 8 novembre, retenez bien la date. Ce sont un groupe allemand anti-nucléaire qui revendiquait ces actes-là. Voilà. De Hanovre. Est-ce que vous êtes au courant?
C'était à quel moment?
C'était au mois de novembre. le 8 novembre.
3 jours avant les...
Voilà.
3 jours avant
Avant qu'on arrête...
Les arrestations. D'accord.
Avant qu'on arrête ces personnes-là. Mm-hmm. Mais alors, ce qui me chagrine, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, moi, j'avais appelé le matin, le lundi matin, j'en ai fait part à Laurent. Mm-hmm. Alors, après, il s'est renseigné, il a regardé sur Internet. Alors, vous pouvez trouver l'information, c'est sur le... Attends, comment ça s'appelle le, non, mais le...
89,
non, non, non. Non, 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 le...
Bloqué...
Les informations en général, c'est moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Bon, ça ne fait rien.
Non, mais aujourd'hui, on le trouve, on le trouve assez voilà. facilement, effectivement.
Attends, ouais. Allô ?
Oui, oui, on est
entend,
avec
oui.
vous.
Oui, on est avec vous.
Là, vous pouvez trouver avec Internet. Moi, je n'ai pas Internet.
Mais c'est gentil en tous les cas pour l'information. Merci
oui.
beaucoup.
Parce que, alors, on ne peut pas. Ça m'étonnerait que le gouvernement ne soit pas au courant. Bon, alors, on laisse traîner cette histoire, c'est quand même bizarre. On n'en tient pas compte.
Donc, d'accord, donc en fait, vous...
Enfin, apparemment, je lisais un texte dans le monde ce soir...
Attends, vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr.
Laurent parle fort.
Je parle plus fort, excusez-moi. Je disais, apparemment, justement, enfin, la mère d'une des inculpées, qui a été elle-même arrêtée, disait que les policiers lui avaient mis la lettre, précisément, de revendication sous les yeux. Effectivement, il y a tout un débat autour de cette lettre de revendication antérieure, enfin, qui donnerait d'autres pistes. C'est vrai que les choses... Dans l'immédiat, on a très peu d'éléments enfin, autres, effectivement, que celui que vous nous avez apporté. On ne sait pas vraiment où...
Ah bah voilà. Voilà. C'est... Enfin, quand même... C'est pas parce que je veux que les autres, là, soient arrêtés, mais enfin, c'est tout au moins... On pourrait disculper ceux-là. Ils sont peut-être innocents, ceux qu'on a arrêtés. Alors moi,
peut-être
je ne sais pas trop
pas.
En parler, parce que c'est... Mais... Enfin, maintenant, vous êtes au courant.
Alors, bah maintenant, nous sommes au courant.
Ça, et les auditeurs aussi.
Et les auditeurs,
merci beaucoup, madame.
Merci voilà. beaucoup.
Non, mais il faudrait peut-être voir un peu plus loin.
Oui, bah, y a bien d'autres cas, de toute façon. Que...
C'est une question de justice. Hein.
Merci.
Bien sûr.
Bon, au revoir.
Alors, merci, madame. Donc...
Oui.
Oui, allô ?
Oui.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Attends, bouge pas, j'attends le retour.
Il est là, le retour.
D'accord. Oui, donc j'ai l'article de l'AFP, là. J'ai l'article de l'AFP sous les yeux.
Mmh.
Oui.
Voilà, c'est bon. Le problème, c'est que par Internet, comme je suis dans les Alpes-de-Haute-Provence, ça met à peu près 9 secondes. C'est pas grave. Donc voilà, revendication anonyme du sabotage de voies ferrées en France et en Allemagne. C'est un article de l'AFP concernant... une revendication du 10 novembre sur la ligne TGV entre Perpignan et Narbonne, entre autres. Des anonymes ont revendiqué dans une lettre en allemand au quotidien de gauche berlinois, Tageszeitung, des actes de sabotage contre des lignes de chemin de fer en France et en Allemagne en novembre. Alors, parce que nous en avons ras-le-bol, nous avons dirigé aujourd'hui aux aurores notre colère contre les lignes de transport de déchets nucléaires, écrivent les auteurs de cette missive reçue mi-novembre par la TAS dont l'AFP a eu copie. Mmh. Le week-end du 11 novembre, retardé par d'énormes manifestations, un convoi de déchets nucléaires retraités en France avait mis en plus de 3 jours pour arriver à un centre de stockage du nord de l'Allemagne. Voilà.
D'accord, ben merci beaucoup pour...
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Le décret de l'AFP. Hein. Voilà.
D'accord.
Voilà. Et on fait également partie du comité de soutien de Fort-Calquier, qui soutient évidemment les inculpés du 11 novembre.
Ben merci d'accord. à vous pour votre appel en tous les cas.
Salutations à vous.
Il n'y a pas de souci.
Bonne soirée.
Non mais de toute façon, je crois, enfin, cette idée est très importante, c'est-à-dire que fondamentalement, on ne va pas faire ici la lumière sur le fond de l'affaire, mais je crois que cette affaire doit être principalement enfin, l'occasion, et je crois que les mobilisations qu'on voit dans les Alpes de Haute-Provence, comme on vient de l'entendre, qu'on voit un petit peu partout en France, doivent précisément être une occasion assez unique, je dirais, ces dernières années, de mettre en lumière précisément les logiques et les questions du système antiterroriste. Je crois que c'est fondamentalement une question qui est... Et je crois qu'il peut peut-être nous interroger sur, peut-être on pourrait en parler un petit peu maintenant, je ne sais pas, de comment finalement on a eu cette espèce d'escalade législative sur un certain nombre de dispositifs antiterroristes, où on a effectivement un chèque en gris, on le dit pas un chèque en blanc totalement, mais un chèque en gris donné aux forces de police en matière de sécurité, alors même effectivement que, comme on le disait au départ de ce débat, tout cela est parfaitement légal. Et je crois que réellement, je crois qu'il y a une question qui est une véritable question centrale, qui est la question à la fois de comment un certain nombre de forces politiques on a une espèce de fuite en avant des forces politiques sur cette dimension-là, et de faiblesse des résistances.
À ce propos, il y a une petite anecdote. Lorsque Mme Alliot-Marie, juste après les arrestations, a déclamé une sorte de communiqué de victoire à la tribune du Parlement, elle a quand même été chaleureusement applaudie par un certain nombre de députés du Parti Socialiste, dont naturellement Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur.
Oui, c'est pas mal de le rappeler, oui, quand même.
Je voudrais juste ajouter sur la question qui vient d'être évoquée, que en réalité, on a assisté aussi à une sorte de paranoïa administrative sur la question des anarcho-autonomes, puisque nous, au syndicat de la magistrature, nous avons pointé du doigt dès le mois de juin, donc bien avant cette affaire de Tarnac, une circulaire du ministère de la Justice qui indiquait que des jets d'engins incendiaires contre des bâtiments publics ou des inscriptions, en fait des tags, sur les murs des préfectures ou sur les enceintes d'établissements pénitentiaires, attribuables, hein, ce n'était même pas sûr, à la mouvance anarcho-autonome, devait conduire à informer de manière systématique le parquet antiterroriste pour envisager un dessaisissement à son profit. Il y avait deux choses incroyables dans cette note. D'abord, le caractère extrêmement flou, qui ne correspond à aucune structuration politique existante des anarcho-autonomes. Bon, aucune précision là-dessus. Et ensuite, là encore, ce risque que j'évoquais tout à l'heure de surqualification est évidente dans une note où on nous parle de tags que l'on rattache à des actes terroristes, avec quand même en filigrane le risque ou la volonté d'incriminer des acteurs remuants du mouvement social, comme le DAL, comme RESF, comme les militants d'aide aux sans-papiers. Bon, donc il n'y a pas vraiment que cette affaire de Tarnac qui est très médiatisée et qui est effectivement emblématique de plein de choses, mais il y a derrière quand même une claire volonté de pénaliser le mouvement social que l'on a vu apparaître, en tout cas nous, au plan justice, dans cette note qui nous a d'ailleurs beaucoup inquiétés, sur laquelle on a communiqué. Donc, Tarnac, c'est un épiphénomène par rapport à une problématique beaucoup plus large et qui vise vraiment des militants de tous les jours.
Rappelons de ce point de vue-là, de manière un peu dramatique, ce n'est pas simplement le fait du gouvernement, mais que y compris des actions militantes, comme dans le cas des intermittents du spectacle, peuvent conduire certains syndicats, la CFDT en l'occurrence, à porter plainte contre des militants pour occupation de lieux publics. C'est bien de le rappeler, et donc notamment pour le chef de la compagnie de la Jolie Môme, je crois que c'est une chose importante à rappeler.
Donc, pour poursuivre cette discussion sur le contre-terrorisme, il y avait évoqué, en fait, avant, on a évoqué pas mal de figures de la répression, mais aussi de la résistance ou pas, etc. Il y a quand même cette question du consensus aujourd'hui. Le consensus, c'est drôle parce que ce mot est souvent associé spontanément à quelque chose de relativement doux, mais le consensus, c'est quand même quelque chose d'assez violent et qui peut quand même, au bout d'un moment, produire des catégories assez binaires. Finalement, tout à l'heure, quand on parlait de... Alors, c'est vrai qu'il ne s'agit pas non plus de fétichiser la question de l'exception et de croire qu'il y a de l'exception partout, que la distinction ami-ennemi est toujours partout, etc. Mais quand même, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, à travers ce reflux du politique, une espèce d'extension, non pas forcément de l'état d'exception, mais pas forcément, c'est pas forcément la peine de recourir à des notions aussi radicales, mais déjà le consensus, finalement, c'est déjà pas mal, en termes de matraque dans la gueule, parfois.
Non mais, bon, moi ce qui me gêne, c'est qu'une partie variable, enfin dont je ne peux pas évaluer exactement l'extension, mais une partie de ceux qui se sont mobilisés en défense des inculpés de Tarnac et qui se sont sentis interpellés, était scandalisé par quoi ? Était scandalisé par l'inculpation de terrorisme et d'association de malfaiteurs, mais terrorisme, c'était le mot terrorisme qui faisait mal là-dedans, parce qu'il pensait cela non. Mais pourquoi il pensait ça ? Pourquoi il était scandalisé ? Parce qu'il pense qu'il y a un vrai terrorisme, voilà, hein, par ailleurs. Bon. Et ce qui renvoie, disons, à, disons, au niveau moyen d'une certaine conscience démocratique aujourd'hui, qui opère ce type de partage, en effet, et qui partage volontiers le monde, comme l'a fait l'administration américaine aussi, d'ailleurs, sur son mode propre, entre les espaces démocratiques dont l'immunité doit être assurée par tous les moyens disponibles, et puis cette hydre du terrorisme extérieur et intérieur. Donc c'est là qu'il y avait effectivement quelque chose, qui est effectivement de l'ordre de cet effet massif, disons, de consensus, qui est un effet de dépolitisation, disons, et de moralisation à outrance, de dépolitisation par moralisation à outrance des enjeux politiques. C'est peut-être ça le truc. Et puis, juste encore un mot là-dessus. Le paradoxe de cette affaire-là, c'est que bon, ça commence par, on est scandalisé par une sorte de déni de l'état de droit, enfin une atteinte aux libertés publiques ou quelque chose comme ça. Bon, un excès de pouvoir policier, un usage de l'exception. Bon, mais au bout du compte, ça se renverse. Ça se renverse puisque, au bout du compte, le pouvoir policier est battu en brèche. Par qui ? Par le pouvoir intellectuel qui s'est mobilisé, épaulé par le pouvoir journalistique qui, dans un deuxième temps, a quand même réfléchi et s'est avisé que non, quand même. On pouvait pas emboîter le pas au ministère de l'Intérieur, quand même, comme ça. Donc il s'est retourné. Les journaux se sont littéralement retournés. Hein ? Après, ce que tu as rappelé tout à l'heure, les premiers départs en fanfare de Geoffrin dans l'IB avec un éditorial invraisemblable où il avalisait l'incrimination de terrorisme.
Libération, retourner, après le monde.
Et alors après, retournement vertueux, et au bout du compte, tout le monde est vertueux, et au bout du compte, on a finalement une démonstration en faveur, quand même, de l'effectivité de l'ordre démocratique. C'est ça qui est merveilleux dans ce système chewing-gum. Le côté chewing-gum du système, ce côté protoplasmique, cette façon dont ce truc-là finalement se retourne et retombe toujours sur ses pieds. Mais c'est de ça qu'il était question dans l'insurrection qui vient. Comment trouver des lignes de fuite en dehors de ça, qui est une machine d'extermination de la politique ? C'est ça le problème que posait l'insurrection qui vient. Alors on peut dire que c'est une fantasmatique. Bon, c'est une façon de penser sur la politique aujourd'hui, sur l'état de mort clinique de la politique dans l'extension de ce régime de fluidité, de plasticité qui fait que tout est digérable.
Assimilable.
Et pourquoi ce livre apparaît ? Parce qu'on est dans une phase où ce qui était encore le bord extérieur d'une radicalité non intégrée est en train d'être digéré. Ça s'appelle comment, cette substance qui est en train d'être digérée aujourd'hui ? Ça s'appelle Besancenot et tout ce qui s'agence là-dessus. Et c'est pour ça que ça surgit. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un bord extérieur, quand même, de toute façon. Il faut bien qu'il y ait un déchet du point de vue du pouvoir, qu'il y ait un déchet.
Un reste qui soit intégrable, quelque part.
Oui, voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant, même si c'est un microcosme, même si on peut... Je suis d'accord qu'en termes de liberté publique, c'est pas au centre des affaires. Mais en termes de réflexion sur ce que c'est que l'état de la politique aujourd'hui, et sur la maladie qui affecte le système démocratique, c'est très intéressant de ce point de vue-là.
Et oui,
non,
vas-y.
Ce qui est quand même singulier, c'est de constater qu'en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne, je dirais, il y a un consensus dans l'ensemble du spectre politique sur ces mesures. C'est intéressant de voir, par exemple, que les lois les plus liberticides qui sont passées en Allemagne, je pense les packages 1 et 2, ont été votées précisément par les Verts. C'est-à-dire, grosso modo, ce sont les Verts qui les ont portés, je dirais, qui en ont fait des mesures effectives. Et je crois que fondamentalement, c'est intéressant de regarder comment se prennent ces débats. C'est-à-dire que on est véritablement plus encore que sur d'autres débats, dans des débats qui se prennent dans l'urgence, C'est-à-dire, ce sont des lois qui sont prises, qui sont très souvent très réactives, je dirais, au sens... Et là, je vais plus loin que les lois antiterroristes. Il suffit de voir, sur toutes les lois en matière pénale, c'est très souvent un fait divers dramatique, je dirais, qui donne lieu, je dirais, à une loi derrière. Je dirais, la logique a été particulièrement poussée aux États-Unis, où on a des lois sur la pédophilie qui portent, y compris le nom d'une victime, comme la loi Meghan, par exemple. La loi Meghan, c'est une jeune fille, une petite fille qui a été violée par un pédophile récidiviste, etc. Enfin, donc, vous voyez, la loi, enfin, bon, bref, vous imaginez, effectivement, la sérénité des débats pour travailler sur ces questions-là. Et je dirais qu'il y ait...
C'est le cas de la rétention de sûreté, d'ailleurs.
Tout à fait. Tout à fait.
La rétention de sûreté.
La rétention de sûreté, c'est un texte qui suit un fait divers dramatique, oui, avec le viol de mémoire, hein, du petit Anis par un récidiviste et la réaction du président de la République à chaud sur cet événement qui met en place dans la foulée un projet de loi dit sur la récidive criminelle, mais qui encore une fois a pour objet d'enfermer des gens de manière préventive.
Et je crois que fondamentalement, si vous voulez, ça renvoie, enfin, d'abord à une chose, c'est le caractère profondément symbolique de la politique, c'est-à-dire que faire de la politique, c'est aussi prendre des mesures symboliques, c'est-à-dire dans ce cas précis, dire, alors même que l'ensemble des professionnels du secteur sont contre ce type de mesures, pensent que c'est des mesures qui ne sont pas applicables, qui sont difficiles, qui posent problème, en tout cas, on les consulte pas, ou à peine, et on prend ce genre de mesures, qui effectivement, après, vont avoir des effets concrets sur un certain nombre de questions. Et je crois que, de ce point de vue-là, il est intéressant, alors, d'une part, on a ça, c'est-à-dire la politique comme symbolique, je crois que c'est très important. Le caractère de l'urgence et de la confidentialité, penser que Edwige n'aurait pas dû logiquement passer même au Parlement, c'est-à-dire que grosso modo, c'est la CNIL qui a dit non quand même, il faut quand même que ça soit un peu avalisé par le Parlement. Bon, ça c'est le premier point, donc urgence, confidentialité, mais aussi, et je crois que ça c'est quand même intéressant, c'est de voir que le monde, le petit monde des professionnels de l'antiterrorisme dont on parle, est un monde extraordinairement connecté à la politique. Le fondateur du système antiterroriste français de 86, il s'appelle Alain Marceau. Alain Marceau, il est devenu député. Jean-Louis Bruguière, comment a-t-il terminé sa carrière de juge? En essayant de devenir un homme politique. Bon, il a échoué. C'est-à-dire qu'on a des liens de collusion extraordinairement importants entre quelques élites policières, pas toutes, quelques juges spécialisés en la matière et, je dirais, un secteur politique.
Les élites politiques.
Et certaines élites politiques.
Certaines élites politiques.
Certaines élites politiques. Et je crois que, fondamentalement, donc ça je dirais, ça doit effectivement nous interpeller comme militants, comme citoyens. Je crois que c'est un premier point. Et ça doit aussi, et je pense que là-dessus, l'affaire de Tarnac, comme d'autres auparavant, sont des moments sur lesquels il faut peut-être marquer très clairement, nous aussi, les frontières. Puisque précisément, ce qui différencie un état de droit du reste, c'est précisément que même les salauds, et même les vrais salauds, ont le droit d'avoir une défense équitable, et d'avoir un certain nombre de choses. Oui. Ça, je crois que un des glissements auxquels on est en train d'assister en ce moment, c'est que pour des gens qui sont désignés comme des salauds, et il y a des salauds, la question n'est pas là, je dirais, on considère qu'on peut appliquer un certain nombre de choses où les droits de la défense ne sont pas garantis, où les incriminations sont plus que fantaisistes, etc.
Où la vengeance de la victime, finalement, devient quelque chose de...
Parce que je crois que ça a des effets fondamentaux en matière, bien sûr, de droits des libertés individuelles. C'est-à-dire que, oui, un salaud a droit de défendu, c'est ce qui, a priori, fonde un état de droit. Mais également, ça a des effets extraordinairement pratiques. C'est-à-dire que, contrairement à tout le discours qu'on entend sur la radicalisation aujourd'hui, on se rend compte historiquement pour avoir, quand on étudie des processus comme l'Irlande du Nord, par exemple, comme l'Algérie, qu'il existe un lien direct, mécanique, entre l'action des forces de l'ordre et les phénomènes de radicalisation. Ce sont les tirs aveugles, indiscriminés de l'armée britannique dans les quartiers catholiques d'Irlande du Nord qui ont provoqué les afflux les plus massifs de militants dans les rangs de l'Iran.
Oui, c'est comme finalement, plus on connaît cet effet que plus il y a de police dans l'espace public, plus les gens craignent, ont un sentiment d'insécurité.
Là, ça va plus loin. C'est-à-dire que grosso modo, c'est des gens qui vont souffrir directement de la répression et des gens qui ne seraient pas passés à la radicalité, à la lutte armée, passent à la lutte armée. Je crois que de ce point de vue-là, je termine juste là-dessus, mais Abu Ghraib,
c'est la même...
Guantanamo, on fait plus pour le recrutement de groupes djihadistes radicaux que 20 ans de propagande de ces groupes-là. Et je crois que ça, fondamentalement, non mais c'est, y a en même temps une logique complètement délirante dans le système antiterroriste, puisque c'est comment réussir à échouer. C'est les hyper-solutions.
Ou comment provoquer une radicalité qui justifie des mesures aussi.
Je suis pas sûr que ça soit pensé comme ça. Je pense même pas que ce soit conscient.
De créer des ennemis intérieurs que finalement ça leur donne une certaine matérialité.
Je pense pas que l'armée britannique en Irlande du Nord voulait voir monter les militants des rangs de l'IRA. Je suis même pas sûr que c'était conscient. Je pense pas que l'armée d'Israël aujourd'hui pense que ce qu'elle fait va renforcer le Hamas de manière très très forte.
Je pense que ça dépend des découpages effectivement qu'on peut faire au sein entre l'Israël, enfin des découpages qu'on peut faire effectivement entre l'Israël et la Palestine. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement l'armée israélienne va porter des atteintes sur la Palestine, qu'ils sont en train, c'est un flirt avec les intérêts palestiniens de l'autre côté. Enfin, c'est la question des enfin, on peut imaginer qu'il y a des prophéties autoréalisatrices, quoi. Je pense que ça peut fonctionner comme effet d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire, à force de crier au loup, finalement, on arrive à le faire survenir. Je pense que ça marche.
Je suis d'accord, mais par exemple, je crois que toute la stratégie de l'armée française en Algérie, c'est-à-dire, c'était vraiment pour en finir avec le FLN. Je crois qu'aucun officier de l'armée française ne pensait que la stratégie française en Algérie allait renforcer les rangs du FLN.
C'est vrai qu'il y a des cons aussi.
Non, mais il y a des cons, mais surtout les gens n'ont pas forcément conscience de certaines dynamiques dans lesquelles
des effets qui produisent.
À moyen terme.
Excuse-moi, Alain, tu veux dire quelque chose. Je vais dire juste un mot là-dessus. Cette affaire de l'antiterrorisme, c'est d'une certaine façon une manière de remettre en selle une politique archaïque qui est la politique du monstre, qui est un aspect, si on veut, d'une politique de l'exception, c'est-à-dire de constitution de catégories qu'elles seraient des catégories, disons, incarnant une criminalité, une forme de criminalité à la limite extérieure à l'humanité, exorbitante, dans ce point de vue-là, justifie pleinement des traitements particuliers, spéciaux, et qui eux-mêmes peuvent se situer en dehors de toute espèce de normes, de normativité générale. Il y a un très beau texte de Benjamin Constant, de tout début du 19e siècle, où il répond à une question qu'on lui pose à propos d'un attentat qui a été commis en 1800 exactement contre Bonaparte, une tentative. Donc faire sauter sa voiture lorsqu'il passe dans une séquelle rue du centre de Paris. Et on lui demande, est-ce qu'il faut créer une juridiction spéciale pour juger ces gens-là, qui sont quand même... Bon. Et sa réponse est extrêmement claire. Il dit non, il faut les juger exactement selon les mêmes procédures sur lesquelles on juge des voleurs de poules. Et ça, c'est absolument fondamental.
Juste une récurrence plus récente que Benjamin Constant, c'est Roy Jenkins. Roy Jenkins, c'était le secrétaire d'État chargé de l'Irlande du Nord, qui est le responsable des lois d'exception de 1974 en Irlande du Nord. Il a dit, dans ses mémoires qu'il a publiées il y a une dizaine d'années, il a dit « Je pensais à l'époque que ces lois étaient justifiées, c'est des lois d'exception qui permettent tout un tas de choses, et je pensais qu'elles étaient justifiées, et dit « Aujourd'hui, je me rends compte » que ces lois, une fois qu'elles ont été votées, on ne revient jamais en arrière. Et si c'était à refaire, je ne le referais pas. C'est très intéressant parce que c'était la même chose.
Sur ce, je crois qu'on a la question d'un auditeur, je crois.
Je pense que ça sera le dernier appel, d'ailleurs.
Vous êtes à l'antenne.
Oui. Allô.
Bonsoir.
Eh bien, écoutez, c'est précisément sur ce qui vient d'être évoqué là à l'instant. Je suis... j'ai en face de moi le Monde libertaire de l'été 1993, qui faisait référence à l'abrogation de la loi du 23 décembre 1992, dite loi scélérate. En fait, cette loi avait pour objet de réprimer les menées anarchistes. Et je suis sur un texte de Gaetano Manfredonia qui expliquait que, après l'arrestation puis l'exécution de Ravachol, des attentats se multiplièrent et d'autres vengeurs suivirent son exemple. Donc ensuite, il y a eu les attentats de Léautier, Powels, Émile-Henri, Auguste Vaillant. À la suite de ces attentats, L'acte de Vaillant fut ainsi immédiatement exploité pour faire adopter en moins d'une semaine et sans aucune discussion préalable deux lois. Une le 12 décembre 1893 portant sur la presse et l'autre le 18 sur les associations de malfaiteurs. La première de ces lois scélérates modifiait les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en créant une nouvelle catégorie de délit, celui d'apologie de faits qualifiés crime. Son but, frapper les provocations indirectes, ce qui donnait la possibilité aux autorités d'ordonner saisie et arrestation préventive dès qu'ils l'estimaient nécessaire. Encore plus directement, la loi sur les associations de malfaiteurs du 18 décembre se fixait comme objectif celui de pouvoir poursuivre toute forme d'entente établie dans le but de préparer ou de commettre des attentats contre les personnes et les propriétés. Même s'il n'y avait pas eu un début quelconque de mise en exécution, la définition extrêmement floue de la notion d'entente, ainsi que de celle d'attentat contre les personnes et les propriétés, permettait en réalité aux autorités de pouvoir frapper désormais de la peine des travaux forcés à temps. Pardon, excusez-moi, je m'en suis trompée. Et donc, ensuite, il dit « Le caractère exceptionnel de ces lois, ainsi que leur utilisation de plus en plus espacée après l'amnistie générale de 1895 et la fin de la période des attentats, ont porté toutefois un certain nombre d'historiens et d'hommes politiques à voir en elles rien d'autre que des mesures ponctuelles, vite tombées en désuétude, avec l'éloignement de la menace anarchiste. » C'est là une erreur, car nous pensons bien au contraire que ces lois marquent un véritable tournant dans la pratique répressive en France qui inaugure des formes modernes du traitement du déviant politique. Donc j'ai continué, je ne vais pas lire tout l'article de Gaetano Manfredonia, mais il est vrai que moi je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. Vraisemblablement, je pense qu'il y a eu stigmatisation de tout le mouvement libertaire dans son emblée. Et je pense que on veut se cacher les mots, mais on est absolument dans cette configuration-là. Les événements politiques internationaux, avec toutes les échecs de tous les systèmes, donne une porte relativement bien ouverte pour les idées anarchistes, et je pense que effectivement ça peut gêner le pouvoir parce que des gens seraient tentés effectivement de se radicaliser dans ce domaine. Mais moi je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui est mis en place actuellement ressemble vraiment on est dans le contexte des lois scélérates de 1892 à 1992.
Merci pour votre intervention.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Alors effectivement, on a Radio Libertaire, donc on n'est pas dans des radios grand public où effectivement on laisse les gens s'exprimer. Ça permet de voir aussi un autre horizon. Peut-être effectivement rappeler. Quand on parle de violence, effectivement, de savoir de quelle violence on parle. C'est vrai que quand on pense à la violence aujourd'hui, on pense effectivement aux casseurs qui brûlent les voitures, aux jeunes qui brûlent les écoles, les institutions françaises, ou encore à ceux qui volent dans les supermarchés, ou encore à des travailleurs licenciés qui se mettent eux-mêmes en danger ou qui sont potentiellement dangereux. Et effectivement, qu'on a qualifié d'inconscient parce qu'ils se mettaient eux-mêmes en danger. Mais je pense que ça traduit aussi simplement le fait que, ben, à un moment donné, les gens n'ont plus rien à perdre. Et que je pense que c'est quand même une chose dont il faut se souvenir. Et de voir effectivement, donc, quand on parle de violence, de quelle violence on parle ? Et que la violence aujourd'hui, elle est quand même dirigée, effectivement, vers la population, vers les SDF, contre les immigrés, contre les chômeurs, contre les malades psychiatriques, contre la jeunesse, contre la population des banlieues, contre toutes les exclus. Et pour donner une tonalité un peu badiouiste, on pourrait dire que finalement, toutes ces minorités sont la majorité en nombre. Donc effectivement, en termes juridiques, on ne va pas aller à dire que l'exception fait la règle aujourd'hui. C'est ce qu'on a essayé de dire, non pas de rentrer dans la caricature non plus. Et en même temps, je pense qu'il faut effectivement garder une attention au présent que chacun doit avoir sur effectivement comment les choses bougent et comment elles peuvent effectivement bouger dans le quotidien. Alors on disait à un moment donné dans l'émission que on peut effectivement s'attrister du fait que parfois les gens ne se sentent pas concernés quand ça touche pas leur quotidien, mais effectivement parfois quelque chose permet à ces personnes de bouger parce qu'effectivement, dans leur environnement, c'est-à-dire l'exception se pointe à la porte et que ça se passe tout près de chez eux et qu'on pourra attendre effectivement, et je pense que ça va être le mouvement général, que les choses vont peut-être bouger. Et au regard de ce qui se passe au niveau international, aussi en Grèce et ailleurs, les choses, dans leur ensemble, peuvent prendre effectivement d'autres tournures.
Alors, je ne sais pas si c'est l'heure de conclure, mais moi, j'ai envie simplement de dire que le syndicat de la magistrature a fêté là tout récemment ses 40 ans. Il a été créé au printemps 68 et il a intitulé son congrès de 40e « Les mauvais jours finiront ». Avec donc une note d'espoir. Et oui, bien sûr, parce qu'il mise sur quoi ? Il mise sur une action collective, citoyenne et transversale. J'en profite pour dire qu'il y a en ce moment un appel des appels qui est organisé par un certain nombre de professionnels des soins, du milieu de la psychiatrie, des médias, des personnels de santé, de la justice, qui cherchent à fédérer autant que faire se peut l'ensemble des souffrances et des inquiétudes sur cette logique de saccage aussi du service public et qui vise en fait à organiser de manière encore une fois transversale les différentes mobilisations. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des sources de réjouissement, puisqu'il y a malgré tout ça partout en France des organisations qui se structurent. Je pense à la façon assez belle dont a été fêté partout sur le territoire le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire que partout en France des conférences ont eu lieu pour faire un état des lieux de la situation française, de ce message universel de la DUDH. Donc bon, évidemment les reculs sont importants, mais on avance quand même en termes militants.
Et puis effectivement, vis-à-vis de ce constat permanent d'une absence d'innovation politique, je pense aussi qu'on a peut-être découpé de façon un peu trop manichéenne des actions qui visaient justement plus au détournement, plus sous un mode spectaculaire parfois. Je pense notamment aux interventions de la BAC.
Brigade des clowns.
Ou aux manifestations de droite, etc. Et puis, d'un autre côté, de l'autre côté, quelque chose qui se voudrait vraiment actif, avec des actions dans le réel assez poignantes. Peut-être qu'effectivement, la question, ça serait peut-être de lier ça dialectiquement, puisqu'effectivement, toutes les interventions, je dirais, un petit peu ironiques, justement, du détournement des mots, c'est aussi une façon de se réapproprier une espèce de, on en parlait aussi autrement, mais à travers ce terme de consensus, une espèce de, d'aplatissement aussi du discours en général, et que effectivement, et à juste titre, je pense qu'on peut aussi se sentir un petit peu parfois colonisé, et que c'est pas mal de se réapproprier les mots. On l'a vu d'un point de vue juridique, qu'on pourrait attendre que pas une surinflation de termes un peu autour de la dangerosité se voit, mais aussi par exemple, dans le cas de l'antiterrorisme, ben de refuser purement et simplement ce terme de terrorisme. Et comme le rappelait Alain Brossa, le terrorisme, ne l'oublions pas, n'existe pas.
Construction. Laurent, tu veux dire quelque chose ?
Oui, je crois que je veux dire un mot. Il y a un des sociologues de l'action collective américain qui s'appelle Barrington Moore, qui dans un très bouquin qui s'appelle Injustice, pose la question suivante. Il dit finalement, la question n'est pas tellement de savoir pourquoi les gens se révoltent. La question est plutôt de savoir pourquoi les gens ne se révoltent pas plus souvent.
Oui, c'est une question d'ailleurs qui a été posée par Reich aussi.
Alors attends. Et bref, étant donné les situations effectivement que les gens ont à affronter. Je crois que par contre, ce qui est important, je pense que dans le contexte actuel, c'est effectivement il existe des mobilisations, mais je crois que l'affaire de Tarnac de ce point de vue-là doit éclairer un peu notre lanterne. C'est précisément, c'est peut-être l'occasion pour une fois de faire un certain nombre de liens qui sont existants entre des endroits où il existe des mobilisations qui n'ont pas de relais. C'est-à-dire, grosso modo, je crois qu'il y a aujourd'hui des espaces de mobilisation parfaitement séparés. Les espaces de mobilisation sont parfaitement séparés parce qu'ils sont construits comme séparés, parce qu'ils ont des histoires différentes. Je ne crois pas que les mobilisations du logement, par exemple, elles ne soient pas directement connectées avec les problèmes qui existent dans un certain nombre de cités périphériques. Je ne crois pas que les questions de violence policière soient des choses qui soient spécifiques à un milieu ou à un autre. Et je crois que, précisément, rechercher les convergences systématiquement sur cette question-là, ce sont des chantiers qui, aujourd'hui, sont des chantiers prioritaires.
Ah, justement, tu passes là à la grande question de zone d'attraction, puisque c'est un peu le but de l'émission, de pouvoir justement trouver la connexion de ce qu'on pourrait appeler des hétérogènes et qui ne le sont peut-être finalement pas. On aurait pu parler des précautions à prendre, puisque certaines personnes auraient voulu que dans cette émission, se sentant directement concernées, on puisse imaginer les précautions qu'elles ont à prendre en cas d'arrestation, etc. On l'avait déjà fait dans une autre émission. Je pense que beaucoup d'autres émissions relayeront la question à Radio Libertaire.
Attends, si je peux me permettre, on a le syndicat de la magistrature sur le plateau. Je veux dire, vous avez un très bon bouquin du syndicat de la magistrature qui s'appelle « Vos papiers ». Qui a précisément valu au syndicat d'être attaqué
par le ministre de l'Intérieur de l'époque pour avoir simplement utilisé l'expression que vous avez d'ailleurs utilisée tout à l'heure, les contrôles aux faciès se multiplient.
Et qui est un bon guide pratique.
Et qui est un guide très intéressant.
Ouais, merci, c'est bien de faire cette référence-là. On va devoir s'arrêter parce que on n'est pas inépuisable, hein, c'est pas possible. Donc peut-être rappeler que nous avions aujourd'hui David Depas du syndicat de la magistrature avec nous, Alain Brossa qui a notamment a réussi à se faire entendre récemment autour de la question tous coupables, tous coupables, et puis aussi Laurent Bonelli qui a été avec nous et qui a aussi publié le dernier ouvrage au nom du 11 septembre. On tient à remercier...
Oui, alors, on remercie toutes les personnes qui se sont succédées à la technique de cette longue émission. Hein, il y a Mathieu qui assure vraiment comme un fou. Il y a Guy, je crois. Guy.
Marc, Nathalie.
Marc aussi qui a pris les appels. Aussi une personne qui est derrière la table. Actuellement, je la vois, mais je ne connais pas son nom. Mais je veux la remercier. Donc, comment elle s'appelle, cette personne ?
Dis pas que c'est le comité anonyme, on va.
C'est pas le comité anonyme.
On n'est pas invisible, on est visible.
C'est quoi ton nom ? Maïté. On remercie bien sûr aussi Maïté. On remercie nos trois invités. Alors.